Bienvenue dans Expansion, un podcast par Eric Flack qui s'adresse à toutes celles et ceux qui cherchent à s'améliorer aussi bien mentalement que physiquement, tout en développant leur relation avec eux-mêmes et les autres. Et aujourd'hui, épisode 129, bienvenue dans ce nouvel épisode. De quoi on va parler ? Je vais profiter d'une petite update sur ma préparation Ironman actuelle pour également parler de sujets plus généraux liés au sport et au dépassement de soi. On va voir un peu où j'en suis dans tout ça, comment je me sens dans ma tête, dans mon corps, si j'ai perdu la motivation. On va parler de discipline, on va parler de d'où vient la mienne et de comment tu peux renforcer la tienne. On va parler d'endurance, donc on va parler d'endurer. On va parler de difficultés auto-imposées, de l'impact de beaucoup de sport sur la vie de couple. On va parler de chute de libido. Putain, non mais... Excuse-moi, mais là, je m'emporte. On touche des sujets sensibles. Figure-toi. Enfin, on verra ça à la fin de l'épisode. Probablement, on va creuser différents aspects sur mes motivations et par extension, certaines motivations qu'on peut trouver dans le sport et dans d'autres choses qu'on a envie d'attaquer dans sa vie. Voilà, tout ça, c'est tiré d'une petite FAQ que j'ai faite sur Instagram. Donc, j'ai reçu beaucoup de questions. Ça me permet d'avoir un épisode un peu plus facile à produire que les derniers épisodes de ce podcast qui m'ont demandé plus de recherche, plus de lecture. Donc, on alterne un peu les sujets, on alterne un peu la quantité de temps, de travail et d'énergie que ça me demande de préparer, de façon à pouvoir maintenir au moins un épisode toutes les deux semaines. D'ailleurs, j'ai 3 épisodes en duo qui vont arriver, que j'ai tourné à Paris avec des guests très sympathiques. Donc, on va alterner aussi avec, à nouveau, des épisodes à deux. Voilà, donc dans cet épisode, je vais centraliser les questions que j'ai reçues à propos de ma préparation Ironman actuelle. Il y en a eu beaucoup à ce propos, il y a eu beaucoup d'autres questions sur d'autres sujets aussi, mais je vais peut-être pas tout mélanger, donc je vais commencer par ça, et puis on verra à la fin de l'épisode s'il y a du temps pour la suite ou si éventuellement ce sera pour un prochain épisode dans une prochaine thématique. Voilà, merci d'être là, j'espère que tu vas bien. On est parti pour une petite discussion et on va commencer tout de suite sans plus tarder par la première question qui est un petit peu générale mais qui permet de poser un peu le thème et les bases. Je vais pas mentionner les pseudos parce que c'est quand même privé ce genre de questions normalement. Donc, je ne vais pas mentionner les pseudos, mais les questions, et peut-être que tu te reconnaîtras si c'est toi qui l'as posé. Première question, mais comment ça se passe cette prépa ? Alors, mini rappel très rapide pour ceux qui débarquent, je prépare un Ironman pour la fin de l'été, pour la fin du mois d'août. D'ailleurs, la date et l'événement vont être annoncés très prochainement, et je me suis laissé 9 mois pour m'entraîner. Donc, un Ironman, c'est 3,8 km de nage enchaîné par 180 km de vélo enchaîné par 42,2 km de course à pied, c'est-à-dire un marathon. Et il faut faire tout ça le plus rapidement possible et ça prend entre 8 heures pour les meilleurs jusqu'à 16 heures pour la fin de la durée limite qui est autorisée pour faire 16 heures ou 17 heures, quelque chose comme ça. Donc ça prend il faut quand même prévoir une journée. Voilà, il faut prévoir la journée. Normalement, tu fais rien après et tu fais rien avant parce que tu te lèves à 4 heures du mat pour le faire, sauf erreur. Mais je n'y suis pas encore, mais dans un mois, j'aurai ma toute première. Je vais rappeler aussi les dates de tout ça. Là, j'en suis à un peu plus de 140 jours dans la prépa. Je ne sais pas combien ça fait, mais je dois avoir... j'ai fait la moitié. Hein. J'arrive à peu près sur 5 mois. À la fin du mois d'avril, j'aurais fait 5 mois de prépa. Donc là, en fait, je suis pile à la moitié. Et justement, je suis pile à la moitié de tout ça. Et comment ça se passe ? Tu me demandes, eh bien, la réponse la plus... La plus succincte que je pourrais donner pour résumer l'ensemble, ce serait « ça se passe bien, par contre, et c'est un par contre important, ça prend du temps et de l'énergie, c'est indéniable. » Parce que, alors là, actuellement, je suis à une dizaine de séances d'entraînement par semaine. On a rajouté une 3e séance de vélo, donc j'ai 3 séances de vélo, 3 séances de course à pied, 2 séances de natation et 2 séances de muscu. Si je ne m'abuse, ça fait 10 au total, mais bon, j'ai arrêté de les compter, hein, figure-toi, parce qu'en fait, je suis rentré dans le groove. Comme je l'ai dit, ça fait 5 mois. Quand ça fait 5 mois que tu fais un truc, tu te poses de moins en moins de questions. En tout cas, c'est comme ça que j'aborde la chose et on va pouvoir y revenir aussi pour d'autres questions qui arrivent. Je suis d'ailleurs actuellement là, tout de suite, dans la semaine la plus grosse de ma prépa qui va pointer à presque 14h30 de triathlon sur la semaine et 3 heures de muscu. Donc, 17h30 d'entraînement prévu sur cette semaine. J'ai prévu de tout faire, hein, même si là, j'enregistre ça, on est à la moitié de la semaine. Donc, ça fait quand même 2h30 par jour en moyenne, sachant que le dimanche, j'ai un jour de repos. Donc, en fait, ça fait plus que 2h30, ça fait 3h par jour, plus ou moins. Bref, et ça, c'est 2h30, c'est sans compter les temps de préparation pour y aller, pour revenir, pour se doucher, les trajets, pour manger plus, pour dormir plus. Bref, ça prend du temps et de l'énergie, comme je l'ai dit. Et c'est un fait. C'est un fait, c'est un choix, et donc il faut l'assumer, et c'est un fait. Quelque chose que j'ai remarqué, clairement, dans tout cela, c'est qu'il y a une vraie courbe en U inversée entre l'énergie que ça te donne par rapport à la quantité de sport que tu fais. C'est-à-dire que tu vois, t'as un axe, t'as un graphique, en bas sur l'axe, tu as la quantité de sport que tu fais, et sur l'axe des Y, tu as, donc l'axe vertical, tu as l'énergie que ça te donne. C'est assez connu, reconnu et validé, je pense anecdotiquement, par quasiment tout le monde, que quand tu passes de 0 à 1h30 de sport par semaine, bah en fait, tu fais du sport, donc c'est censé te fatiguer, mais en fait, ça te donne plus d'énergie. Tu te sens mieux, tu te sens plus, énergique. Tu te sens mieux dans ton corps et dans ta tête, donc je pense qu'en plus tu accomplis plus de choses parce que bah tu as un gain de bien-être et de santé non négligeable à tout ça. Ça me fait penser à un petit débat qu'on a eu sur Instagram avec des gens qui ont fait un réel qui a buzzé parce qu'en fait ils disaient tout simplement que le sport c'est pas bon pour la santé. Bref, c'était pas un débat très intéressant, mais c'est pour dire. Et en fait, bah au bout d'un moment, si tu fais beaucoup de sport, bah à un moment donné, ça ne te donne pas plus d'énergie, ça finit par t'en prendre de plus en plus. Et moi, j'ai bien réalisé que j'étais sur la partie de droite de cette courbe, c'est-à-dire sur la partie où je fais suffisamment de sport pour qu'en fait, bah, je me retrouve avec moins d'énergie le reste du temps qu'il me reste. Mais bon, ça fait partie du deal. Je vis avec et je suis reconnaissant de pouvoir expérimenter ça, je ne vais pas mentir. Mais c'est quelque chose auquel je m'attendais sans trop savoir à quoi je m'attendais, tu vois. Enfin, tu sais jamais vraiment ce que c'est. Tu peux te représenter certaines choses, bah je me représente un petit peu mieux et c'est très intéressant. D'ailleurs, je me suis fait la remarque il y a pas si longtemps, c'est que j'ai l'impression que j'ai quand même un petit avant-goût. À nouveau, je ne sais pas ce que c'est, mais je commence à me faire une idée de ce que c'est que la vie d'athlète professionnel. Un athlète professionnel, c'est quelqu'un qui est littéralement bah, son taf. Littéralement, c'est quoi normalement? C'est faire du sport et dormir. Voilà, ça c'est les priorités les plus importantes dans sa journée. C'est bien faire du sport, bien dormir. Et en troisième, très important aussi, bien s'hydrater, bien s'alimenter, hygiène de vie, récupération, tout ça. Donc là, je réalise qu'en faisant autant de sport et en ayant mis en priorité à ce point-là le sport dans ma vie, que je me dis, tiens, c'est vrai que si j'étais un athlète pro, quelque part, ça ressemblerait un petit peu à ça. Alors, je suis convaincu que c'est pas le cas, quelque part. Quelque part, je me dis que ce serait plus facile si j'étais un athlète professionnel, parce que j'aurais moins de trucs à faire à côté. J'exagère, je ne sais pas ce que c'est que la vie d'athlète pro. Surtout que les athlètes pro de très haut niveau, mais alors eux, ils s'entraînent pas 3 heures par jour. T'inquiète qu'ils s'entraînent bien 2 à 3 fois plus, à mon avis. Et après, il y a s'entraîner, il y a l'intensité des entraînements. Je ne connais pas, mais je me dis, tiens, c'est vraiment dans cette période de ma vie où j'en ai jamais fait autant. Donc, une petite note. Tu vois, là, je survole le truc quand même juste au début. La petite note que je réalise, d'autant plus maintenant, et ça, ce serait peut-être un conseil quelque part, un premier retour d'expérience, c'est que je sens quand même clairement que tout ceci pénalise ma vie professionnelle, c'est-à-dire ça pénalise la quantité de temps et d'énergie que je peux naturellement attribuer au reste de ma vie, étant donné qu'il y a certains fondamentaux dans ma vie que je n'ai pas envie de réduire ou de trop sacrifier, comme par exemple ma vie de couple, on dira, ou bien clairement mon hygiène de vie, c'est intimement lié à tout ça. Donc je sens que professionnellement, clairement, j'ai moins de temps et j'ai moins de hargne. J'ai un peu moins faim parce qu'en fait, bah, j'ai déjà bien mangé quand je m'y mets, si tu vois ce que je veux dire. Donc, j'aurais quand même envie de dire, je suis content. Alors moi, je suis content, je regrette absolument pas mon choix et ce qu'il se passe. Par contre, j'ai réalisé que je ne me serais pas recommandé ça, et donc par extension, je ne recommanderais pas ça si ta vie professionnelle, ta croissance professionnelle est ta priorité numéro 1. Et après, bien sûr, il y a prépa. Il y a prépa et prépa. Il y a prépa pour maximiser ton potentiel et faire le mieux que tu puisses. Et il y a prépa pour, je veux juste y arriver. Je veux juste parcourir cette distance et tout. Parce que c'est quand même différent. Tu peux en faire plus ou moins en fonction de tes ambitions, bien sûr, dans la compétition. Mais en tout cas, de mon propre point de vue, qui est important de garder en tête, bien sûr, qui est que je suis un indépendant, entrepreneur, créateur. Donc, je ne suis pas salarié. Et je n'ai pas le point de vue d'expérience d'un salarié. Ce que je sais, c'est que de mon point de vue, clairement, la vie professionnelle ne peut pas être maximisée. Il n'y a pas de doute, clairement. Après, je suis quand même sacrément reconnaissant de pouvoir faire ça. Et c'est un truc dont je suis fier et je serai fier d'avoir fait. Et donc, je me souviendrai pour toujours. J'en suis certain en réalité parce que c'est suffisamment long, intense et quand même demandant et assez unique, je pense, pour ne jamais oublier cela. Et justement, j'ai l'impression que ce genre de souvenir quand même assez fort, on n'en a peut-être pas des centaines dans une vie, donc je chéris l'opportunité et l'occasion que j'ai de pouvoir le faire et de pouvoir peut-être garder cela à côté d'autres types de souvenirs qui sont probablement plus importants, des souvenirs qui sont liés à nos relations avec d'autres personnes, c'est les choses les plus importantes. Mais souvent, on associe des souvenirs forts à des émotions fortes. Et j'aime autant dire qu'en termes d'émotions, là-dedans, je ne suis pas en reste. Et je vais passer à la deuxième question qui sort un tout petit peu du sujet, mais j'avais envie de la passer quand même, parce que ça me permet d'expliquer certaines choses aussi. Et puis, un petit objectif, ça répond à d'autres questions sur d'autres objectifs en cours de route qui ne sont pas liés au sport. J'ai vu cette question qui a eu l'œil, parce que pas beaucoup de gens ont remarqué pour l'instant. La question c'est, j'ai vu que tu intervenais au TEDx Écu Blanc. Quel sera le sujet de ta présentation ? Alors effectivement, à l'heure où j'enregistre ce podcast, il y a genre 2 jours, le TEDx Écu Blanc en question a annoncé la liste des intervenants qui se présenteront le 16 mai au soir sur scène pour présenter en fait chacun leur TEDx. Et en premier, qui est annoncé ? Eric Flagg, YouTuber. Ils m'ont pas demandé mon avis, ils ont mis YouTuber. Bon écoute, ça me va très bien. Donc Eric Flagg, YouTuber, va présenter un TEDx justement le 16 mai. Donc ça fait pas si longtemps que je me suis engagé à faire ça vis-à-vis d'eux. C'est eux qui m'ont contacté et j'ai vu ça et je me suis dit, c'était pas la première fois, on m'avait déjà proposé une fois, mais c'était il y a assez longtemps. Et puis je m'étais dit, bon, c'est pas le moment, j'ai pas envie. Mais en fait, c'est jamais le moment, t'as jamais envie. D'autant plus pour ce genre de choses qui, personnellement, me projettent dans une sensation d'inconfort assez palpable, assez difficile. C'est un exercice que je ne connais pas, mais c'est un exercice que je me suis déjà avoué avoir envie, pour lequel j'ai envie de m'améliorer. J'en ai déjà même mentionné dans les objectifs de l'année dernière, apprendre à parler en public. J'avais fait ma première petite conférence au début de l'année, devant 25-30 personnes, et là, il y a entre 100 et 150 personnes qui sont attendues. En plus, c'est un format TEDx, donc il y a des règles qui sont très précises, très carrées. Ça sera publié sur la chaîne officielle de TEDx, etc. Il y a plein de choses. Il y a des répétitions générales. Il y a un coach qui nous suit, tous les speakers, pour nous donner des conseils. Il faut faire des répétitions. Il y a plein de choses. Et en plus de ça, bien sûr, il faut écrire un texte qui vaille la peine d'être entendu, qui soit bien récité, qui colle parfaitement dans les 12 minutes qui nous sont autorisées. Ça varie entre 10 et 18 minutes généralement, mais chaque organisateur de TEDx peut décider du format. Donc c'est ça que je fais aussi en ce moment, tout ça pour dire. Je suis pas mal là-dessus et forcément que travailler sur mon TEDx, on dira, ne m'aide pas à sortir plus de podcasts ou à faire plus de vidéos. Mais je me suis engagé et il n'y a pas beaucoup, beaucoup de temps pour tout ça. Donc, sur quel sujet ? Pour répondre à la question, le sujet, ce sera probablement autour de la confiance en soi. Je n'ai pas encore terminé mon texte, même si il faut que je me bouge un peu. Mais ça tournera autour de ça et j'espère être à la hauteur de cela. Comme je l'ai dit, j'appréhende beaucoup. Mais je compte, c'est obligé, je me suis engagé, maintenant c'est annoncé, donc si je viens pas, ou si je me chie dessus, ça sera pour moi. ça sera Eric n'a pas assumé, et normalement Eric il assume, en tout cas on va voir si j'assume, mais c'est prévu, voilà, tout ça pour dire au cas où tu serais dans le coin. Donc Écu Blanc, c'est à Lausanne, c'est sur le campus de l'université de Lausanne et de l'école polytechnique fédérale de Lausanne, là où j'ai fait mes études. C'est littéralement à côté de chez moi, je me suis dit je suis invité à la maison, c'est incroyable, ce sera jamais le bon moment. Littéralement, le 16 mai, je présente ça et le lendemain matin, je pars pour aller faire mon premier Ironman à Aix-en-Provence. Donc, c'était juste ric-rac. J'ai dit, vas-y, c'est vraiment juste la veille. On va plutôt aller à Aix-en-Provence vendredi matin, mais vas-y. Enfin, j'ai dit ça à ma copine quand j'en ai parlé. J'ai dit, bon, vas-y, je suis obligé d'accepter, en fait. Je peux pas dire non. L'opportunité est, voilà, forcément, c'est au milieu de plein de choses, mais l'opportunité est trop belle. Pour que, en fait, j'ai juste à dire oui, et après, c'est trop tard. J'ai dit oui, je suis engagé, on a fait le Zoom, etc., on a discuté de tout ça, bon, bah maintenant, c'est foutu, j'ai dit oui, il faut que je le fasse. Même si c'est, voilà. Je vais apprendre des choses, ça sera l'occasion peut-être d'en reparler. Bref, voilà, c'était juste pour répondre à ça, vu que j'ai vu que cette personne avait vu que j'étais inscrit et que j'allais faire ça. Bref, question suivante, on revient sur la prépa Ironman, ça c'était le petit aparté. Il y aura un épisode YouTube que je raconte, il y aura sûrement un épisode de podcast dans lequel je pourrai parler de cette expérience-là, de ma première conférence sur laquelle je ne suis jamais revenu, et de tous les apprentissages que j'ai tirés de cela. Je l'espère, après avoir présenté ce TEDx, que tout le monde pourra voir, que tu pourras voir aussi, vu qu'il sera publié sur la chaîne YouTube officielle de TEDx. Voilà, en attendant, prépa Ironman, est-ce que ça continue de te faire perdre du poids? Tes joues se creusent. Alors bon, j'ai souvent des commentaires sur mon physique. Ça ne m'atteint pas, moi, je m'aime comme je suis, tout ça. Non, c'est vrai que j'ai parfois des commentaires sur mon visage. On me fait des commentaires souvent sur mon visage. Bref, j'ai toujours eu les traits des joues assez marqués. Bon, je n'ai jamais été extrêmement en surpoids non plus, donc forcément que ça se comblerait. Mais non, j'ai pas perdu de poids, je suis très content. Je suis toujours à 86 kilos. Depuis le tout début, je suis à 86 kilos, même si je m'étais pesé lors de mon Dexascan au tout début de la prépa à environ 87. Je sais pas, j'ai perdu un kilo très vite derrière. Aussi parce que je m'étais pesé après le petit-déj ce jour-là, donc j'avais déjà bu et mangé, donc ça influence. Et je suis toujours à 86, là, après presque 5 mois de prépa. Donc je n'ai pas perdu de poids, j'ai pas l'intention d'en perdre beaucoup, hein, je ne vais pas mentir. Si je reste à 86, ça me va très bien. Question d'après, récapitulatif de ce que tu manges tous les jours pendant la prépa. Alors oui, je le ferai dans une prochaine vidéo YouTube, ce récap. Grosso modo, je mange beaucoup clean, mais je me fais plaisir aussi, hein. Franchement, je fais attention à ce que je mange, mais en partie aussi, j'en ai un peu rien à faire, dans le sens où je bouge tellement que je peux manger ce que je veux, tu vois. Sans, évidemment, j'en ai pas rien à faire de ce que je mange, mais tu comprends que je n'ai vraiment pas à compter de faire attention que je mange pas assez, ça c'est sûr. C'est plutôt, il faut que je fasse attention à bien manger, et là, franchement, j'y vais à balles, et je ne prends pas de poids, donc j'ai l'impression que ça se passe pas trop mal. Pareil, il y a une question sur toutes les dépenses que j'ai dû sortir de mon portefeuille pour le triathlon, cet Ironman. J'en parlerai aussi dans une vidéo, je pense, un petit décompte officiel de tout ce que j'ai sorti comme thune. Ça coûte cher, hein, le triathlon, surtout le vélo, ça coûte cher, MDR, le vélo. Comment est-ce que tu gères la nutrition pendant l'effort? Ça, c'est une partie de la nutrition qui est quand même un peu différente. Je fais très attention à la nutrition pendant l'effort. Il y a quand même quelque chose que j'ai vu une fois dans une vidéo et qui m'a semblé très vrai. C'est que plus la compétition ou le sport s'allonge, plus la durée de la course est longue, plus ça devient une compétition de celui qui mange le mieux versus celui qui, en fait, est le plus fort dans le sport. Parce que tu peux être très fort dans la course à pied. Si tu fais un ultra trail de 150 km et que tu t'alimentes n'importe comment, celui qui sera moins fort en course à pied mais qui mange mieux, il va te battre. À mon avis, évidemment, à partir d'un certain moment, si tu fais pas attention. Donc clairement, déjà, lors d'un marathon, c'est important de comment tu t'alimentes. Un marathon, ça dure entre 2h30 et 5h pour la plupart des gens. C'est important de boire et de manger pendant, même si on est d'accord que ça reste assez raisonnable. Ça peut même être des choses que tu gardes sur toi, du début à la fin. Même si l'eau, garder un litre et demi d'eau sur soi, c'est pas pratique. Donc les ravitaillements des courses officielles sont stylés. Moi, je fais très attention à ça depuis le tout début. Je bois à chaque sortie. J'ai toujours ma petite gourde quand je vais courir. J'ai même ma petite gourde quand je vais nager. Donc, j'ai toujours 500 millilitres quand je vais nager. Et à chaque fois, j'ai des électrolytes dedans. Des électrolytes, concrètement, c'est des minéraux que tu perds par la transpiration principalement. Et ça, je le vois bien sur tous mes vêtements de triathlon, mes cuissards de vélo et même mes vêtements de course à pied. Tu as ces marques blanches, même sur la gueule, j'en ai de plus en plus. Les marques blanches, c'est quand ta transpiration a séché, tu as des traces blanches. Pas les traces blanches, c'est souvent du sel. C'est le sel que tu as besoin de, que ton corps a besoin de perdre pour te permettre de transpirer. Et ensuite, vu que tu perds des sels minéraux et de l'eau, si tout ce que tu fais, c'est boire de l'eau, eh bien, tu peux avoir un déficit en sels minéraux. Et ça, ça peut être problématique d'un point de vue d'une bonne hydratation, ce qui peut te permettre évidemment de mieux performer, ce qui peut permettre d'éviter d'avoir des crampes, ce qui peut en fait te permettre tout simplement de, d'être plus performant plus longtemps. Et c'est pour ça que c'est important de s'hydrater comme il faut. Et s'hydrater, ce n'est pas que de l'eau, c'est aussi tout ce qu'on perd lorsqu'on transpire, typiquement du sodium, du potassium et un peu de magnésium, il me semble, ce que contiennent la plupart des électrolytes sur le marché. Moi, j'utilise les électrolytes de MyProtein qui s'appellent Hydrate, tout comme j'utilise les gels de MyProtein quand je mange. Bien sûr, code Eric Flag sur MyProtein pour avoir les meilleures réductions du game possible sur tes compléments. Et les gels, c'est 25 grammes de glucides. Ça, je bombarde. Hein. Je bombarde à vélo, je bombarde à course à pied. Généralement, en course à pied, sur les sorties longues, je vise peut-être environ 50 grammes de glucides par heure. Donc la plupart du temps, ça passe par deux gels de 25 grammes. Mais après, en course à pied, jusqu'à présent, j'ai jamais couru plus que 1h40. Donc généralement, je m'en sors avec deux ou trois gels parce que j'ai mangé avant, parce que je mange après, etc. Donc je m'embête pas plus que ça. En natation, je ne mange jamais pendant la natation, je mange avant, vu que je vais toujours à la natation après le petit-déj. Petit-déj, voilà, souvent des œufs, du pain, voilà, banger, voilà, je t'ai balancé un peu mon petit-déj. le standard, tartine, œufs, tous les matins, ça passe et ça part. Et le vélo, alors par contre, le vélo, j'ai déjà fait des sorties de 4h30. En vélo, je vise en environ 60 à 70 grammes de glucides par heure. Et ça, ça passe par des gels, ça passe par des boissons d'effort. Typiquement des boissons, j'ai une boisson où c'est du 80 grammes de glucides que je prends dans une flasque de 500 millilitres. Donc j'alterne entre la boisson, j'alterne entre les gels, des fois je prends des bananes. Aussi sur des 4h30 de vélo, c'est long, tu vois, tu te fais un peu chier, t'as envie de varier un peu les goûts et les plaisirs. Donc je prends des petits snacks au chocolat de MyProt, aussi des petits Twix ou des petits Kinder Bueno, voilà, version MyProt avec plus de protéines dedans, etc. je m'en prends un ou deux parfois, ou une petite barre de prot, tu vois, un peu de solide, c'est-à-dire de l'alimentation un peu solide sur du 4h30. J'ai vu qu'il y avait pas mal de gens qui prenaient des petits bonbons aussi pendant leur course. Faudrait que je m'achète des bonbons, ça fait des années que j'ai pas acheté de bonbons. C'est vrai que ça change le goût, c'est bon, c'est du sucre rapide, hein, c'est ce dont on a besoin pour ce genre de choses. Donc ceci plus beaucoup d'eau, toujours des électrolytes dans mes gourdes à vélo. Et puis on n'est pas trop mal. Et puis à chaque fois, à la fin de chaque entraînement, même quand je m'entraîne deux fois par jour, typiquement, je prends toujours un shaker de protéines en poudre avec facilement, combien je mets de poudre dedans ? Je mets facilement deux bonnes scoops, hein. Facilement 50-60 grammes de poudre, donc facilement 40-50 grammes de protéines dans les shakers que je prends après chaque entraînement. Plus tu fais de sport, plus tu fais de cardio et de muscu, etc., et bien plus il faut s'assurer que l'apport en protéines soit suffisant. Donc moi, je n'hésite pas, je bombarde à ce niveau-là pour maximiser la récupération, pour garder toute ma masse musculaire aussi. C'est clairement le but, parce que je suis plus en maintien d'un point de vue muscu. Donc j'y vais comme il faut, shaker, donc créatine aussi tous les jours avec protéines Clear Whey, je prends de la Clear Whey et de la Whey Isolate sur mes protéines bien entendu. Et j'aime bien franchement, Clear Whey, goût pêche, goût pêche et puis fraise kiwi, c'est mes goûts préférés de Clear Whey. Et je mets généralement une scoop de Clear Whey et une scoop de Whey Isolate. Histoire d'avoir un maximum de prot par calories, on dira, même si là, je ne suis pas en train de compter mes calories, clairement, c'est juste que j'ai pris l'habitude de faire ça. Donc voilà toute ma nutrition pendant les entraînements et juste après. Prochaine question, à cet instant T, quelle discipline préfères-tu ? Alors, je sais que cette question, on me la pose souvent et généralement, on me demande, ouais, entre natation, course à pied et vélo, qu'est-ce que tu préfères ? Ben, en fait, je vais répondre aucun des trois. Ah, ça t'emmerde bien ? Pourquoi ? Parce que, alors, c'est un peu bizarre, c'est pour ça que je vais l'expliquer, mais ce que je préfère faire en ce moment, j'ai quand même l'impression, c'est de la muscu, du street workout et du renfo. Pourquoi ? Par effet de rareté, en fait, tout simplement. Parce que je ne vais à la salle de muscu pour faire du street ou de la muscu que deux fois par semaine. Et en plus, ces deux dernières semaines, je suis parti à Paris, je suis parti dans le sud de la France. J'ai dû sacrifier une ou deux séances de muscu. Donc, parfois, j'en ai fait qu'une dans la semaine. Et ça m'a manqué. Et du coup, c'est ce que j'apprécie le plus faire. Parce que, bah, en fait, c'est noyé au milieu du reste. Et c'est vrai que bah, j'adore en fait faire de la muscu et faire du street workout. J'adore ça. Je m'en rends bien compte aussi là. Donc je suis très content d'aller en faire. Voilà, pour répondre quand même à la question de base. La course à pied, j'apprécie un petit peu moins en faire maintenant par rapport aux autres. Pourquoi ? Pas parce que j'aime moins, simplement parce qu'en fait, l'objectif, le but du triathlon, c'est que tu termines par la course à pied. C'est-à-dire que dans une course de triathlon, jamais tu ne vas courir en étant frais. Tu vas courir toujours après avoir fait de la nage et du vélo. Donc en fait, c'est important à l'entraînement de s'entraîner en étant fatigué, en ayant les jambes fatiguées. Donc c'est très rare que, sauf sur les sorties longues où c'est le seul entraînement triathlon que j'ai dans la journée, la plupart du temps, c'est-à-dire pour mes autres sorties course à pied, la première fois souvent c'est après le fractionné vélo, je dois aller courir directement. Donc j'aime autant dire que je suis déjà bien fatigué après le vélo. Et sinon, là, c'est ce que je vais faire demain. Je vais d'abord nager et ensuite j'ai une sortie course à pied. Donc en fait, c'est la deuxième séance de la journée, je suis fatigué. Ou alors la sortie longue course à pied, j'ai beau la faire le samedi matin, la veille, j'ai la sortie longue vélo. Donc là, typiquement, vendredi, j'ai 4h30 de vélo. Et le lendemain, j'ai 1h40 de course à pied. Donc, le dernier jour, la dernière séance, après toute une semaine où j'ai bombardé 9 séances, j'ai encore la sortie longue course à pied. Même si c'est la première de la journée, je suis explosé souvent. Explosé, on s'entend, mais je suis bien content de rallier le jour de repos le dimanche. Et du coup, j'y vais, je suis fatigué. Hein. Mes jambes sont fatiguées, j'ai fait 4 heures de vélo la veille. Tu vois, donc c'est un peu moins un kiff parce que les nécessités de l'entraînement en triathlon exigent que la course à pied n'est pas la priorité à faire quand tu es frais, clairement. Donc course à pied un petit peu moins, mais j'adore ça, j'adore la course à pied, j'ai vraiment pas prévu d'arrêter, ça c'est sûr. La nage, j'aime de plus en plus, it grows on me, je sais pas comment on dit ça en français, comment on traduit ça, ça grandit en moi, ça déteint sur moi. Ouais, ça m'amadoue. Je suis amadoué par la nage de plus en plus. Parce que je progresse, bien évidemment. Mais qu'est-ce qu'on se plaît plus dans un truc quand on progresse ? Donc, j'aime beaucoup plus la nage. J'ai fait mes premiers 400 mètres de suite, tout seul, sans matériel, sans aide. J'étais trop fier. Parce que je reviens de loin quand même. Enfin, de mon point de vue, hein, bien sûr, on est tous... je n'ai que mon point de vue en point de comparaison. 25 mètres avant, je décédais à moitié. Non, j'exagère. 25 mètres, je pouvais m'en sortir, mais il me fallait une pause. 50 mètres, je décédais. J'exagère, mais tu vois ce que je veux dire. Et là, j'ai fait 400 mètres deux fois. J'ai déjà fait deux fois 400 mètres et je n'ai pas décédé. J'aurais pu continuer. Alors évidemment, je ne vais pas très vite, mais c'est le but. C'est le graal au début en natation. C'est de réussir à nager lentement sans mourir, ce qui est très difficile par rapport au vélo et à la course à pied, où c'est très facile de faire du vélo doucement ou de faire de la course à pied doucement, c'est-à-dire marcher. Tu ne peux pas vraiment marcher en natation parce que ça te demande beaucoup d'efforts de ne pas couler. Donc voilà, et puis il reste le vélo. Je vais pas mentir, le vélo est... j'aime un peu plus le vélo, mais si je dois le ranker par rapport à tout le reste, je le mettrai quand même en dernier. Pourquoi ? Sans entrer trop dans les détails, parce que le vélo, c'est très chronophage. T'es obligé d'en faire beaucoup, donc ça prend beaucoup de temps. Il faut beaucoup s'organiser, il faut aller dehors, il faut crever, il faut apprendre à changer des pneus, c'est très maximaliste aussi comme sport le vélo, niveau matériel, il faut avoir un vélo, ne serait-ce que ça, un vélo qui fonctionne, il faut s'y connaître un peu en mécanique, il faut dépenser beaucoup d'argent, voilà, donc c'est quand même un frein à ce niveau-là, littéralement, ça peut être un frein et je réalise que c'est quand même ce qui, en tout et pour tout, voilà, la discipline que je mettrai en troisième pour l'instant. Mais on refera le point une fois la prépa terminée. Je ferai un point définitif sur ce que j'ai pensé de tout ça. Mais là, quand même, j'ai 5 mois, donc je commence à me faire une petite idée de tout ça. Le street et la muscu, comme j'ai dit, je kifferai toute ma vie, je ne veux jamais arrêter ça. C'est pas parce que je m'amuse à faire des Ironman, des marathons, des trucs comme ça en ce moment que j'ai envie d'arrêter le renfo. En fait, j'ai réalisé ça aussi, d'autant plus ces dernières semaines où j'ai pu faire un tout petit peu moins de muscu et ça m'a frustré un peu que si je ne devais faire que du cardio, de l'endurance, du triathlon, de la course à pied, j'aurais même plus envie d'en faire, je pense. Parce que pour moi, c'est juste trop ancré, trop important. Je suis trop amoureux du renforcement musculaire. Je montre le biceps en faisant ça, parce que c'est cliché, stéréotype et tout, mais c'est quand même mon premier amour dans le sport personnel, individuel, pour moi-même, que j'ai fait. Et puis, je trouve ça terriblement... terriblement stylé du point de vue de comment je me sens dans mon corps, dans ma tête, comment je me comporte, comment je me tiens au quotidien, ma santé, ma forme en règle générale, et ainsi que ma vision de moi-même dans le miroir, très important. Je vais pas, absolument pas dénigrer cela, c'est tout à fait important pour moi. J'ai une sacrée image de moi-même dans ma tête, et moi, mon identité, l'image que j'ai de moi-même, c'est clairement un mec musclé, tu vois. Alors musclé, évidemment, on peut discuter, il y a musclé et musclé, mais de mon point de vue, je suis musclé, et c'est vrai que c'est très lié à ma vision de moi-même, et j'aurais du mal à encaisser le fait que ça change. Enfin, évidemment, ça pourrait changer, évidemment que j'en mourrais pas, je pense, mais j'ai absolument pas envie. Donc c'est vrai que, quelque part, faire que du cardio, de l'endurance, et perdre le renfo et tout ce que ça m'apporte, en plus, ça m'aide beaucoup pour le cardio. Les deux sont tellement synergiques. La préparation physique et le renforcement musculaire est tellement synergique avec l'activité d'endurance, que ce soit le vélo, la nage, la course à pied. Il y a beaucoup de synergie. Alors évidemment, si tu fais 8 séances de muscu par semaine, bah, tu ne vas pas maximiser tes performances en cardio, on est bien d'accord. Mais y a un argument très facile à faire, et on aurait beaucoup de mal à me convaincre du contraire, que mes 2 séances de muscu par semaine... je ne sais plus si je dois utiliser la négation ou pas, mais en gros, ces 2 séances par semaine sont très bénéfiques à ma pratique du triathlon, et ne serait-ce que parce que ça m'aide à me sentir mieux dans mon corps et dans ma tête, quoi. Donc le street, c'est trop stylé, j'adore faire des handstand push-up, je fais beaucoup de handstand push-up en ce moment, j'ai vraiment envie de matraquer ça, je ne veux surtout pas le perdre, et au contraire, je veux m'améliorer un petit peu dessus. Les drapeaux, les muscle-up, les tractions, les dips... ça bombarde, et puis un peu plus de renfo, hypertrophie un peu, avec des tirages à la poulie. Je fais aussi des curls. Je travaille plus le haut du corps, le bas du corps, j'entraîne beaucoup, je l'entraîne aussi, mais c'est plus d'un aspect prévention et gestion des blessures, tout comme l'aspect mobilité. La mobilité, j'adore. La souplesse et tout, j'adore. C'est plus difficile à caler en ce moment, mais j'en fais, j'en ai surtout. C'est bizarre, mais j'ai recommencé à en faire encore plus dans ma prépa. Quand j'ai eu une petite blessure à traiter, tu vois, au niveau de la hanche, j'avais un petit souci qui a duré un petit moment. Heureusement, j'ai pu traiter ça. J'en parlerai dans une prochaine vidéo YouTube sur ma prépa. Mais réintégrer du renfo spécifique et de la mobilité dans le bas du corps, énorme banger pour la prévention et du coup aussi la gestion des potentielles blessures que j'ai eues. Donc voilà, comme je me suis fait la remarque, et c'est pas la première fois dans ma vie que je me fais cette remarque, mais... je me dis, putain, j'ai vraiment envie de pouvoir maintenir, par exemple, faire le drapeau ou faire des pompes sur les mains. J'ai vraiment envie de pouvoir faire ça jusqu'à 70 ans ou plus. J'ai envie d'être le grand-père qui fait des drapeaux. Putain, ça a l'air... c'est quand même quelque chose qui m'attire de plus en plus versus faire des full planches de fou et obtenir un... tu vois, ça, c'est pour ceux qui font du street, qui connaissent, mais avoir des maltaises, avoir des exercices qui sont très, très poussés, très avancés. Aujourd'hui, limite, ça m'intéresse moins que d'avoir une certaine longévité dans des mouvements et des figures qui sont moins difficiles, hein, clairement, mais qui sont aussi soutenables à plus long terme, je pense, et qui me procurent plus de plaisir, parce que c'est vrai que, comme je l'ai dit encore plus en ce moment, moi, ça me fait plaisir d'aller faire de la muscu, donc j'y vais pas pour faire des trucs que j'ai pas envie de faire en plus, parce que, tu vois, c'est un peu la partie fun de ma semaine. J'ai pas un programme ultra carré structuré en muscu actuellement, Donc, quand j'y vais, j'ai envie de kiffer. J'y vais, je prends mon petit matos, je fais mes petits handstands, mes petits équilibres, mes petits trucs. Enfin, je suis trop fou, quoi. J'y vais juste après cet enregistrement de podcast, en plus. Putain, j'ai trop hâte. J'ai fait 1 heure et demie de vélo ce matin. Là, je vais aller m'entraîner à la muscu après. Je suis trop chaud. Je suis trop content. J'adore la muscu, putain. J'adore le sport. Est-ce que c'était pas clair? Eh ben, j'espère que c'est clair maintenant. Une petite gorgée d'eau, là. Parce que je m'excite. Je parle fort, je suis enthousiaste. Oui, et je disais, bah du coup, j'y suis. Évidemment, j'y vais avec mon petit matos, tout ça, tout ça. Si toi aussi, t'as envie d'avoir ton matériel, tes programmes de street workout pour apprendre à kiffer aussi, faire des handstand push-up, faire des drapeaux, tenir sur les mains, faire des muscle-up, balancer les tractions, avoir un corps de mec qui fait de la muscu au poids du corps. Et c'est un corps qui, si tu veux mon avis, est quand même assez esthétique. C'est pas un corps de bodybuilder, mais c'est un corps, qui plaît beaucoup, j'ai l'impression, voilà, si vraiment on devait, d'un point de vue critère de beauté généraux, ça plaît beaucoup, et bien tout ça se trouve sur ericlac.com, tu peux soutenir tes progrès sportifs avec le meilleur matériel du game, et les meilleurs programmes de street et de sèche du game, pour perdre du poids, pour t'améliorer au poids du corps, au street workout, pour prendre le contrôle de ton corps, pour prendre le contrôle de ta confiance en toi également, par la même occasion, c'est clairement là-dedans que j'ai eu... le petit déclic, la petite étincelle qui a déclenché la naissance de ma confiance en moi, ce dont j'ai parlé dans l'épisode 10 de ce podcast. D'ailleurs, donc, ericlac.com pour soutenir tes progrès sportifs et mon travail et celui de ma petite équipe par la même occasion. Merci. Et on entre à présent dans des questions avec un peu plus de matière. En tout cas, je me suis dit qu'elles allaient être un peu plus longues. Notamment, on va parler des motivations et de la discipline. Première question. Qu'est-ce qui te motive le plus à t'entraîner pour cet Ironman? Alors, c'est vrai que la question de la motivation, de pourquoi, en fait, tu fais ça, etc., etc., ça revient aussi régulièrement. Il y a différents aspects de réponse à cela. Premièrement, les émotions et les sensations incroyables d'une telle aventure que je vis déjà un peu au quotidien, mais que, évidemment, seront, je l'espère, au paroxysme, une fois la dernière ligne droite atteint, ça doit être quelque chose de, c'est déjà incroyable, mais ça doit être quelque chose de très très puissant, je pense. Tout comme le sentiment, je vais pas mentir, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup, beaucoup dans ma vie, j'en ai déjà parlé quelques fois, il me semble. Le sentiment du devoir accompli, c'est quand même un des sentiments que personnellement j'adore. J'aime énormément ça. Ça peut être une fois que j'ai créé quelque chose, un podcast, une vidéo, je l'ai publié, je me pose le soir, j'ai fait mon taf. Ça peut être juste sur une journée, hein. J'avais des trucs à faire aujourd'hui, je les ai faits, j'ai terminé la journée, je me dis putain, j'ai accompli mon devoir. Alors évidemment, c'est comme ça que moi je le vois, c'est comme ça que je le formule. Peut-être que toi, tu le formulerais différemment, mais que c'est le même sentiment. Mais j'adore, j'adore. Et c'est particulièrement accentué une fois, par exemple, à la fin de mon marathon, c'était quelque chose d'assez présent. C'était en mode, putain, Eric, t'as accompli ton devoir vis-à-vis de cette prépa marathon, parce que tu peux le voir sur un devoir d'une journée, tu peux le voir sur un devoir de plusieurs mois, tu peux le voir sur un devoir d'une vie. Et je pense que plus la durée est longue, plus ça a été long et difficile, et plus ça t'a demandé d'investissement personnel, plus ce sentiment est quand même exacerbé. Et c'est ce que j'ai remarqué en tout cas dans mon expérience jusqu'à présent. Le truc qui est marrant, c'est qu'on parle de motivation et tout, justement, et ça m'a fait penser à quelque chose que j'ai ressenti ces derniers temps, c'est que la motivation de faire quelque chose, par exemple un Ironman, un marathon, je ne sais quoi, ça peut se perdre, évidemment, en cours de route du processus. Notamment, j'ai remarqué, et je l'ai remarqué, c'est pas par hasard, que la motivation peut se perdre, d'autant plus à un moment bien précis, par exemple d'une préparation sportive, parce que clairement, c'est le sujet de l'épisode, donc on va rester dessus, c'est le milieu. Le milieu de la prépa, tu sais, pas le début, parce que le début, non seulement c'est l'excitation, tu t'inscris, tu dépenses X euros pour payer un dossard et t'engager envers toi-même à te créer ce souvenir dont j'ai parlé au début de l'épisode. Tout est nouveau, tu peux l'annoncer à tout le monde, t'es là, eh, vas-y, je vais faire ce marathon, vas-y, dans 4 mois, je vais courir, etc. C'est nouveau, tu découvres les séances, tu découvres ton programme, parce que normalement, tu te trouves ou tu te crées un programme pour l'occasion, et donc il y a des nouveautés, faut y aller, faut attaquer le truc. C'est stylé. La fin de la prépa, pareil, il y a la course qui s'approche, il faut se préparer, tu commences à regarder plein de vidéos dessus en mode, ma stratégie de ravitaillement, qu'est-ce que je vais faire, mon matos, mon équipement, il faut rien que j'oublie en partant à Paris, ça c'était pour moi, tu vois, il faut que j'essaie de rien oublier en partant à Paris pour mon marathon. J'avais réussi à oublier des trucs, en plus j'ai oublié mes écouteurs, j'ai oublié quelques trucs assez importants d'un point de vue, après j'ai pu faire 100. Mais c'est l'excitation du truc. Il y a l'échéance finale qui arrive. Tu y penses de plus en plus. Le marathon et tout, c'est quelque chose. Moi, j'y pensais tout le temps. Alors, je te parle pas de l'Ironman, putain. Si, justement, je vais t'en parler un peu. Parce que là, comme je l'ai dit, je suis à la moitié de la prépa. Je suis littéralement au milieu de cette prépa, dans le ventre mou un peu. Moi, j'appelle ça le ventre mou. C'est un peu le milieu, c'est un peu où il se passe pas grand-chose, quoi. C'est pas le moment le plus excitant, en fait. Ni pour toi, ni d'un point de vue extérieur, parce que bon, c'est bon, tout le monde a compris que tu t'entraînes tout le temps. Bon, tout le monde s'en bat les couilles déjà, plus ou moins depuis le début, mais alors encore plus maintenant. Ils s'en battront moins les couilles quand ça s'approchera, et c'est génial. Mais à un moment donné, tu vois, il faut faire les choses, et c'est là que tu es un peu testé, mine de rien. Et ça peut être intéressant de se rappeler aussi pourquoi tu le fais. Parce que moi là, je suis un peu en mode robot, hein, je vais pas mentir. Tous les jours, je regarde, bon bah qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Ok, bon bah je vais faire ça. C'est parti. Ma journée s'organise aussi de par mon style de vie, s'organise autour de mes entraînements. Je place les entraînements et puis ensuite. Je travaille, etc. Tout le reste. Typiquement, je suis content de pouvoir aller à la piscine quand c'est pas absolument blindé de monde. Ça, c'est un luxe. Donc, je suis très content de pouvoir y aller aux heures creuses, c'est-à-dire le matin juste avant midi, généralement. Et c'était quoi? C'était avant-hier. J'ai fait mon fractionné vélo pendant 2 heures, là, et j'ai regardé des vidéos en même temps. Et j'ai regardé des vidéos de triathlon, d'Ironman, parce que forcément, je suis un peu dans le truc. Et j'ai re-regardé. Par exemple, une vidéo d'Ironman de Nick Baer qui terminait un de ses Ironman qu'il a fait il y a plusieurs années. J'avais déjà vu cette vidéo il y a genre... en fait, j'avais vu cette vidéo pendant ma prépa marathon au tout début. Mais putain, je commençais à courir la course à pied et tout ça. Donc, je ne savais pas du tout ce que c'était que le triathlon et ce que ça pouvait représenter que de préparer un Ironman, on dira. Et là, j'ai revu cette vidéo sur mon vélo l'autre jour. Bah, les sensations, c'était quand même assez incroyable. Sincèrement, je me suis reconnecté aussi en me disant « Mais putain, mais qu'est-ce que ça va être ? Qu'est-ce que c'est stylé déjà ?» Parce que c'est vrai que t'as tendance à l'oublier un peu, hein, t'as tendance à l'oublier au milieu de la prépa. Mais en plus, tu dis « Ah putain, ça va arriver, c'est une expérience de fou, ça m'apprend trop de trucs, c'est trop enrichissant, c'est trop stylé. » D'un côté, je me réjouis d'y arriver, d'un autre côté, je suis pas pressé parce que bah... C'est un peu ma nouvelle vie et quelque part, je l'aime bien, normalement, parce que tu t'es un peu mis dans le groove à la moitié de la prépa. Il y a quand même plus d'automatismes qui sont là. Il y a normalement moins de discipline qui est nécessaire, même si c'est à ce moment-là qu'il y a moins d'excitation. Donc, tu vois, la motivation peut être moins présente. Donc, heureusement qu'il y a peut-être besoin d'un peu moins de discipline. Mais c'est trop stylé, ça touche certaines émotions. Quand je regarde la vidéo, ça me fait naître certaines émotions un petit peu et ça me permet de gratter un tout petit peu ce que je pourrais ressentir une fois ce travail accompli, on dira. Et c'est le but d'une bonne vidéo de ce genre, hein. C'est de réussir à retransmettre ne serait-ce qu'une fraction, parce que c'est difficile de retransmettre plus qu'une fraction dans une vidéo, des émotions que tu traverses pendant cette course, pendant un marathon typiquement. C'est ce que j'ai essayé de faire avec ma vidéo marathon. J'ai vraiment essayé... J'ai fait mon maximum en tant que créateur, voilà, tout simplement, hein, j'ai mes limites, hein, bien sûr, en termes de storytelling et tout, j'ai fait avec tout ce que j'avais à ce moment-là. Après plusieurs années à faire des vidéos, clairement, si j'avais fait cette vidéo il y a 5 ans, je pense qu'elle aurait été moins aboutie à ce niveau-là. C'est cool de savoir que je m'améliore, je pense. Tu l'as peut-être vu, mais cette vidéo marathon, peut-être que tu l'as vu, peut-être que tu t'es dit « Oh putain, j'ai quand même ressenti une ou deux petites émotions en regardant toute la vidéo ». Quand moi je franchis la ligne d'arrivée à la fin dans la vidéo, le but c'est que bah, les émotions de la personne qui regarde, ça monte aussi, tu vois. C'est clairement le but d'un bon film, d'une bonne musique, d'une bonne vidéo, d'un bon livre, c'est que ça fasse naître des émotions. Mais sache que quand tu le fais toi-même, cette chose, aller courir un marathon, faire je ne sais quoi, ces émotions, et c'est peut-être même pas exactement les mêmes, je ne saurais pas exactement retranscrire ça, c'est x10, c'est x100 ce que tu vas ressentir. Donc, c'est beau de se reconnecter un petit peu à ça. C'est beau d'avoir déjà eu une expérience aussi. pour se le rappeler. Par exemple, mon marathon me rappelle évidemment un petit peu ce qu'il y a à gagner au bout d'une ligne d'arrivée comme cela, au bout d'une prépa comme celle-ci. Et si c'est ta première expérience, comme ça, c'était le cas pour moi dans la course à pied typiquement, eh bien, le but, c'est que ça te... Bah, le but de cet épisode de podcast aussi, en général, et de certains autres épisodes ou contenus et tout que je fais, ou de mes stories sur Instagram tout le temps, ben, c'est de t'inspirer aussi, de te donner un petit peu envie, de te donner une fraction, justement, de te montrer, de te faire ressentir une fraction de ce que tu aurais à gagner en le faisant toi-même, typiquement, ou en t'inspirant des choses, ou en les appliquant à des choses qui te regardent. Clairement, moi, mon but avec tout ça, c'est grandement aussi, mon but destiné à toi-même, parce que je le fais aussi pour moi, mais, mais dans la partie que je fais pour toi, le mec et tout, dans la partie que je fais pour toi, mon but, c'est aussi de t'inspirer à être l'acteur de ta vie, en fait, à être clairement l'acteur principal de ta vie, de ne pas la vivre par procuration uniquement en regardant des vidéos sur ce que font les autres. Alors, évidemment, c'est pas ce que tu fais, c'est pas ce que tout le monde fait, mais il y a différents niveaux d'investissement personnel dans sa propre vie, j'ai l'impression, dans la population, voilà, on dira. Bien sûr qu'il y a plein de choses qui changent, la situation de chacun, tout le monde n'a pas, évidemment, la liberté, le luxe de certaines choses, c'est pas la discussion. Ce que je veux dire quand même, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent beaucoup de vidéos, moi le premier, et c'est extrêmement bien, hein, de s'inspirer de ce que font les autres. Ce serait terrible de ne pas le faire, hein, parce que c'est génial de regarder ce que font les autres, de soutenir aussi, c'est génial d'avoir des personnes dans son entourage à soutenir, à se réjouir pour elles, à s'inspirer de ce que font ces personnes dans notre entourage, d'être content sincèrement pour elles. Moi, ça faisait partie d'une question, mais je vais aller faire un semi-marathon là tout bientôt, dans 2-3 semaines, avec des proches à moi qui ont quand même été... je pense pas mal, oui, ils seraient d'accord évidemment de dire qu'ils ont été inspirés par moi pour commencer à courir. Ils vont aller faire leur premier semi-marathon. Je suis beaucoup trop content pour eux, en fait. Beaucoup trop content. Déjà, moi, j'irai courir avec. Je serais trop content de... Bah, je suis trop content déjà de voir l'investissement qu'ils ont dedans. Ouais, ils se préparent, ils font leur petite course, leur petite sortie, endurance fondamentale, sortie longue, toutes ces conneries, si je puis me permettre. Et ils se prennent au jeu. Et je me dis, ah putain, mais ces sensations que j'ai eues en courant et en faisant des trucs, vas-y, j'ai envie que mes proches ils ressentent ça. J'ai envie de les inspirer à le faire sans, évidemment... leur dire et les faire culpabiliser de faire du sport et tout. On en revient au débat sur Instagram sur le sport, c'est pas bon pour la santé. Mon but n'est pas de faire culpabiliser les gens qui ne font pas de sport. On est bien d'accord, je le répète rapidement là. Que tu fasses du sport ou pas, c'est très bien. Mais évidemment que je t'encourage à être au clair avec toi-même sur pourquoi tu le fais ou tu le fais pas. Et à partir de là, tout est bien pour moi. Mais c'est pour dire... qu'il y a trop de trucs trop stylés, déjà vis-à-vis des autres. Donc c'est génial de partager avec les autres, de soutenir les autres, de regarder ce que font les autres, de s'inspirer de ce que font les autres. Je trouverais ça aussi dommage. Déjà, c'est génial de partager ça avec ces personnes, mais c'est génial de le partager dans les deux sens, c'est-à-dire de soutenir d'autres personnes là-dedans, de se réjouir pour elles, et c'est génial aussi de faire des choses pour toi. Et ça peut être soutenir ou te réjouir pour un inconnu. Par exemple, tu regardes les vidéos Iron Man de Eric Flagg, et quelque part, t'as envie qu'il réussisse, t'as envie que sa course se passe bien, mais bon, tu le connais pas. Il y a différents niveaux de relations. Mais ce que j'ai envie, évidemment, d'inspirer et de promouvoir, c'est que, bah, à un moment donné, tu sois toi l'acteur principal de ton truc. Parce que ces aventures sont quand même géniales à partager avec d'autres personnes. Ça, c'est évident, dans les deux sens. Quand c'est les autres qui font, quand c'est toi qui font, c'est génial d'être bien entouré, c'est important, c'est terriblement enrichissant d'avoir aussi ses propres aventures dans une société quand même où on est bombardé par les aventures des autres. Il faut reconnaître, pour le meilleur et pour le pire, voilà, on dira. Donc, personnellement, moi, je veux une vie au maximum intentionnelle, si je puis dire, je t'encourage à faire de même. Du coup, j'ai envie d'avoir l'impression de choisir une partie de ce qui m'arrive. Voilà, on va pas parler de destin là tout de suite, mais j'ai envie de pouvoir choisir les choses, de pouvoir parfois quand c'est difficile de l'avoir choisi, que ce soit uniquement par mes propres décisions, typiquement, de me mettre dans la difficulté, typiquement, pour aller apprendre ce qu'il y a à apprendre en tant que individu dans la difficulté auto-imposée, parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre dans la difficulté auto-imposée que j'ai pas l'impression d'avoir trouvé ailleurs. Après, peut-être qu'une fois que tu l'as trouvé là-dedans, tu ne la reconnais plus dans d'autres formes. Bref, j'en sais rien. Mais il y a quand même des apprentissages personnels qui sont magnifiques et qui sont liés à ça. Et le sport, c'est un bon exemple, clairement. Préparer un événement ou une course, c'est encore plus élevé, quelque part. Faire du sport, évidemment, c'est difficile, tu t'auto-imposes la chose. Mais quand tu as en plus un cadre, une deadline avec une course, par exemple, typiquement dans un sport d'endurance, là, il y a des enjeux qui sont d'autant plus cadrés, qui sont d'autant plus clairs. Tu sais qu'il y a le jour J, tu sais que c'est toi qui t'es inscrit. Normalement, personne t'a forcé à t'inscrire pour faire cette chose difficile, comme par exemple préparer un marathon. Et il y a beaucoup de choses à apprendre là-dedans. Donc, je ne peux que t'encourager à ta juste mesure, à ta propre progression personnelle. Tu vois, on est bien d'accord que c'est progressif derrière. Le marathon de quelqu'un, ça sera le 5 km de quelqu'un d'autre. Ça sera, tu vois, il y a plein de parallèles. Évidemment, chacun son niveau et à chacun de se demander, mais en fait, jusqu'à où j'ai envie de monter, en supposant que monter est toujours mieux. Et pour continuer quand même sur cet aspect de motivation, dans cet Ironman, j'ai un petit peu digressé peut-être un peu là-dedans, mais bon, c'est comme ça, c'est l'idée du podcast aussi. Une autre raison de pourquoi, en fait, qu'est-ce qui me motive à le faire, une autre motivation pour cet Ironman, c'est que j'ai envie d'apprendre à endurer encore plus, peut-être. Concrètement, j'en avais déjà parlé, sauf erreur, je crois. C'est pour ça que j'ai commencé la course à pied. J'avais envie d'apprendre à endurer, c'est ce qui me plaisait, de me dire qu'en fait, ça va vraiment me renforcer mentalement, parce que pour moi, les épreuves d'endurance, c'était le test ultime, c'était le test mental ultime, parce qu'en fait, t'étais en souffrance incroyable du début à la fin. Et en fait, c'était la course, évidemment, celui qui est le plus entraîné, mais aussi celui qui tient le plus dans sa tête. Et ça, je trouvais ça assez magnifique, ça m'a toujours beaucoup attiré. Et ensuite, j'ai réalisé que c'était pas vraiment ça, parce qu'un marathon, typiquement un marathon bien préparé... Les 21 premiers kilomètres, ils sont censés être faciles. T'es pas dans la souffrance, etc., etc. Donc, il y a quand même une notion. J'ai appris un peu ce que c'était. Et sans mentir, j'ai évidemment appris à endurer dans mon marathon, mais ça n'a pas dépassé mes attentes. Je pensais, à tort ou à raison, à voir hein, pour qui je me suis pris, je ne sais pas. Mais je pensais que ça allait me faire plus endurer ou plus m'endurcir mentalement. Qui était quelque chose qui me plaisait. Alors évidemment que ça a été le cas, mais force est de constater que j'ai apparemment eu envie d'aller chercher un cran au-dessus, à différents niveaux, en tout cas en termes d'épreuves d'endurance, il n'y a aucun doute. Donc ça fait un moment que mon marathon est terminé, que je me suis lancé dans un truc bien prenant, difficile aussi. Donc je suis peut-être un peu biaisé, hein, évidemment, quand je dis ça, faut me prendre pour ce que c'est-à-dire j'avais probablement pas exactement le même discours quand j'ai terminé mon marathon, parce que c'est le principe de la vie, tu vois, tu replaces tes standards, tu rechanges plein de perspectives et d'attentes au fur et à mesure de ta vie, hein, ce qui était difficile un jour peut devenir facile, et donc tu n'as plus le même rapport et tu oublies. C'est un peu la notion d'oublier ce que c'est que d'être débutant dans quelque chose quand ça fait très longtemps que tu l'as fait. Tu peux oublier ce que c'est de te remettre. Ça peut être difficile de te remettre dans les chaussures de quelqu'un qui débute, par exemple. C'est un parallèle à cela. Mais c'est pour dire quand même que quand je fais le point aujourd'hui aussi par rapport à ce que j'ai vu du marathon de Paris 2024 qui s'est passé il y a pile une dizaine de jours au moment où j'enregistre ce podcast, c'est que personnellement, mon marathon, il s'est super bien passé. Genre du début à la fin, tout s'est bien passé. Alors, il y a eu des mini-accros. Quelques petites douleurs par-ci, par-là, quelques courses assez horribles sous la pluie, dans le noir, dans le froid, pendant la prépa, évidemment, qui ont renforcé un peu aussi ce côté de ma discipline, etc. Mais globalement, tout s'est plutôt bien passé, la course s'est très bien passée, mais comme je l'ai dit, je m'attendais à quelque chose de différent, apparemment. Une chose est sûre, c'est que là, dans la prépa, dans cette prépa Ironman, c'est différent, il y a pas de doute, et je vais le notifier officiellement aujourd'hui dans cet épisode parce que je sais que peut-être je changerai d'avis plus tard, j'en sais rien, je ne pense pas, mais je le dis quand même. Non, là aujourd'hui dans cette préparation triathlon Ironman, j'endure, c'est sûr et certain, J'endure parce que c'est très prenant, c'est encore plus présent dans ma tête tous les jours. Je pense que beaucoup de triathlètes, quand même, d'autant plus ceux qui préparent une compétition, se reconnaîtront dans le fait que voilà, ça fait quand même beaucoup, beaucoup partie de tes journées. Tu y penses énormément. Le triathlon, sans vouloir comparer avec l'ensemble des sports, surtout que je ne pourrais pas, je pense que c'est quand même un sport qui se place assez haut en termes du temps que tu dois y consacrer dans ta pratique. Parce qu'en fait, il y a trois disciplines. Donc, c'est quand même trois disciplines qui sont des disciplines à part entière que tu peux pratiquer tout seul avec des compétitions. Sauf que là, tu décides de les faire les trois à la suite. Donc, il y a beaucoup de travail. Hein. On peut en faire trop, mais on peut très facilement en faire trop. Mais quelque part, si on ne pouvait pas burn out, eh bien, on pourrait en faire non-stop parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à travailler. Et donc, ça prend beaucoup de temps, c'est beaucoup plus prenant, comme j'ai dit. J'ai décidé de faire ça pendant 9 mois, là j'en suis à la moitié. Je vais passer tout le printemps, tout l'été, qui sont mes saisons préférées, que je ne vais pas passer à chiller tranquillou sur la plage et à m'entraîner vite fait comme j'ai envie pendant l'été. Non, je vais m'entraîner plus que jamais dans ma vie pendant ces saisons-là. Je vais terminer à la fin de l'été, donc en plus, quand j'aurai fini, l'été sera passé, 2024 sera la meilleure partie de 2024 en termes de météo et tout sera terminée. Donc, je sens que j'ai plus de compromis à faire dans ma vie, là où ça n'a pas vraiment été autant le cas avec la course à pied dans ma prépa marathon. J'avais beaucoup moins de compromis à faire dans mes journées pendant la prépa marathon. J'étais beaucoup moins fatigué, etc. Et oui, ça prenait moins de temps et moins d'énergie, on va dire. Donc, le triathlon, c'est quand même autre chose. Pour revenir sur mon marathon, pour revenir un peu sur les motivations aussi, parce que c'est un peu la question, les motivations pour ça. Donc, mon histoire de marathon, elle a été belle. De mon point de vue, tout s'est parfaitement bien passé. Je suis très fier de tout ça. Comme je l'ai dit, j'aurais rien à y changer. Mais quelque part, j'ai pas non plus pu goûter à ce que c'est, par exemple, que de prendre un mur monumental au 28e kilomètre, de perdre toute mon énergie, d'avoir 12 crampes dans les jambes et de quand même avoir à me pousser pour terminer mon marathon à la seule force du mental en voyant ma vie défiler devant mes yeux pendant les 12 derniers kilomètres. Je n'ai pas vécu ça. Et certaines personnes l'ont vécu, ça fait partie de leur histoire de marathon. Il y a autant d'histoires de marathon que de marathoniens, probablement, même si, évidemment, il y a des catégories. Il y a la catégorie de ceux qui se sont pris un mur monumental. Il y a la catégorie de ceux qui, malheureusement, n'ont pas réussi à rejoindre la ligne d'arrivée et remettre ça à une prochaine fois, probablement. Il y a la catégorie de ceux qui l'ont fait sur un coup de tête sans s'entraîner et qui ont énormément galéré, qui ont peut-être regretté derrière du point de vue des signaux que leur corps leur ont renvoyés pendant les semaines qui ont suivi. Il y a ceux qui ont préparé le truc bien, qui s'en sont bien sortis et de leur propre point de vue, comme c'est mon cas. Bref, il y a plein de choses. Et il y a des très belles histoires aussi, partout en fait, il y a des très belles histoires partout. Autant chez ceux qui se sont accrochés au mental jusqu'à la fin, autant il y a des très belles histoires en devenir sur ceux qui ont dû mettre le frein à main et avorter la course pour se protéger eux-mêmes physiquement ou parce que c'était pas du tout leur journée, ça peut arriver clairement, et qui voudront prendre leur revanche un jour. Et donc l'histoire ne sera que plus belle quand tu te repointeras après être tombé au plus profond de l'histoire, le héros, c'est-à-dire toi, et bien entendu, parce que tu es l'acteur, tu es le héros de ta vie, ou l'héroïne de ta vie, et bien tu es tombé au fond du trou, t'as fait toute cette putain de prépa pendant des mois, tu t'es pété les fesses à aller courir sous la pluie. Et puis après, il t'arrive une couille le jour du match, le jour du marathon, le jour où tu dois faire ta présentation devant 150 personnes. Ce jour-là, tu t'es chié dessus, voilà, peut-être littéralement, peut-être. Bref, on va arrêter avec les images un peu bizarres. Bref, ça s'est pas bien passé. Le héros est au fond du trou. Et c'est à ce moment-là que dans toutes les belles histoires, eh bien, il fait la belle montée, il vient prendre sa revanche, il se réinscrit à un marathon, il prend sa revanche à la prochaine Coupe du Monde, etc. C'est comme ça que les plus belles histoires sont écrites. Donc, quelque part, toutes les histoires sont belles, toutes les histoires peuvent potentiellement être belles. Moi, je ne connais que la mienne. J'ai pas vécu, justement, les histoires avec le rebondissement de fou où je suis tombé au fond du trou en explosant au milieu de la course, typiquement. Et c'est aussi en ayant ça à l'esprit que j'ai été motivé. Voilà, pour en revenir après tout ça, pour en revenir à la question que j'ai été motivé à me dire, mais en fait, j'ai bien envie de me réinscrire à une nouvelle course, j'ai bien envie de trouver un nouveau challenge avec des enjeux, avec un jour J, avec une échéance à respecter, à laquelle je dois m'engager, je dois me présenter, comme c'est le cas pour mon TEDx, tu vois, y a, évidemment, ça s'applique dans différents domaines de la vie, hein, pour plein de choses. Quand tu prépares une prépa, quand tu es à l'université, tu vois, une prépa universitaire, des choses comme ça, et que tu as un jour J avec toute une batterie d'examens à passer, eh bien, c'est la même chose. Il y a une prépa, il faut se pointer, et le jour J, il faut pas se chier dessus parce que tu dois show up et tu dois faire le taf. C'est un test. Et c'est dans ce genre de test aussi que tu écris l'histoire, que certaines histoires les plus belles, je pense, s'écrivent quand le héros a été un peu testé quand même. Hein. Sinon, c'est un peu mou, on s'est un peu chié devant le film quand il se passe absolument rien, tu vois. Enfin bref, on a été biberonné aussi aux histoires avec des hauts et des bas. C'est aussi parce que c'est ce qui marche et c'est ce qui nous fait vivre le plus d'émotions dans un encart cinématographique d'une heure et demie ou de deux heures, tu vois. Donc il faut que ça rebondisse un petit peu. Mais c'est, je me suis dit, ben en fait, vas-y, c'est cette préparation Ironman, par exemple, je ne peux que gagner. Alors ça, je suis toujours en train de me convaincre que c'est le cas, hein, mais je ne peux que gagner, peu importe l'issue, en fait. Si ça se trouve, rien n'ira bien dans cette course. Parce que là, typiquement, dans un mois, j'ai mon premier Ironman, semi-half Ironman, 70.3. Celui-ci, c'est un peu la grosse répétition générale, on dira, parce que la date définitive, ce sera fin août. Et si ça se trouve, fin août, je me pointe sur mon full Ironman. Ça fait 9 mois que je me pète les pieds à m'entraîner des heures et des heures et des heures. Et si ça se trouve, le jour J, je ne pourrais même pas finir cette course. Ça peut provenir d'un manque de préparation, d'un manque d'anticipation. Ça peut provenir d'un pas de bol. Ça peut provenir d'un problème mécanique. Ça peut provenir de plein de choses. Ça me ferait bien chier, t'inquiète, je vais pas mentir, hein, ça me ferait quand même bien chier de pas franchir la ligne d'arrivée, et c'est le cas pour n'importe qui, et c'est bien pour ça que c'est intéressant, qu'on a envie d'attaquer ça, parce qu'il y a de l'enjeu, et c'est ça qui donne de la saveur et des émotions. Je le verrai peut-être pas tout de suite, hein, si je devais abandonner, par exemple, pour une raison ou une autre, je le verrai peut-être pas tout de suite, mais je pense que j'en tirerai beaucoup à moyen terme. J'espère, c'est le principe, hein. C'est le principe. C'est j'espère, parce qu'en fait, ça ne m'est pas encore arrivé, tu vois. Donc j'espère que je ferai partie, que je ferai partie de ceux qui profiteront d'être au fond du trou pour ensuite regravir la montagne et terminer plus haut que jamais. C'est l'image que j'ai envie d'avoir de moi-même, c'est l'histoire que j'ai envie de créer pour certains, voilà, pour certaines parties de ma vie, on dira. La partie sportive, bah, je préférerais quand même ne pas terminer au fond du trou et puis terminer un peu sur une victoire, enfin terminer. J'espère ne jamais terminer, on s'entend, mais voilà, on se comprend. Mais c'est pour dire que si ça devait terminer sur un échec, abandon, j'espère que j'en tirerai quelque chose. Si je devais en chier de ouf pour rejoindre la ligne d'arrivée, parce que il m'arrive une énorme couille, j'ai mal géré mes ravitaux, etc. Je crève à vélo 3 fois et donc je suis frustré parce que je perds plein de temps, mais j'arrive quand même à terminer. C'est pareil, je pense que j'en tirerai des trucs de fou. Si ça se passe parfaitement bien du début à la fin, bah c'est pareil, je vais en tirer des trucs de fou. Tu sais, c'est quoi la morale de ça? Je n'échoue jamais, j'apprends. Ah, une belle leçon de développement personnel. Non, mais c'est con, mais c'est vrai. Et c'est en me convaincant beaucoup de cela que j'y vais et que je me dis, mais c'est incroyable. Bien sûr, j'ai la possibilité de le faire, je peux me permettre de passer autant de temps à faire du sport, etc., etc. Donc c'est absolument génial, j'ai envie de saisir cette opportunité, c'est clair et net. Et j'ai envie d'en tirer le maximum, et j'ai envie d'en tirer quelque chose. Et je pense, au vu comment c'est parti en tout cas, que je suis obligé d'en tirer des trucs. Donc moi je vis pour ça. Sincèrement, à ce moment-là, je vis pour ça. Il y a plein d'expériences que j'ai envie d'avoir dans ma vie. Il y a plein d'expériences complètement séparées. J'ai envie de fonder une famille. J'ai envie de voir grandir mes enfants. Expérience de fou que j'ai envie d'avoir. C'est personnel. Je te raconte évidemment ça. Mais l'expérience du dépassement physique sportif, on dira, c'est quelque chose qui m'attire beaucoup, qui m'attire depuis longtemps. Et je pense que tu l'auras compris quand même un peu. Après, on est d'accord, tu peux faire une course, tout ça, c'est stylé. Il y a des apprentissages qui sont plus chiants et moins stylés que d'autres. Par exemple, la grosse blessure, je ne peux que imaginer, par exemple, te taper une énorme blessure peu de temps avant la course, quand tu t'es bien cassé les pieds, et plus que les pieds, clairement, pendant toute une prépa sur des mois, et qu'à la dernière minute, tu te blesses. Ouais, je pense que t'as plutôt envie d'envoyer chier les beaux apprentissages, là, parce que ça, je pense que ça te saoule de fou. Mais je pense quand même qu'à terme, les leçons se dévoileront, tôt ou tard, je l'espère, d'autant plus quand tu décides d'en tirer quelque chose et de les appliquer pour la suite. Et parfois, ces leçons, parfois, demandent un prix à payer qui est quand même assez conséquent. Parfois, le prix est trop grand à payer. Et tu peux tomber au fond du trou et ne pas te relever. Ça fait partie des risques, mais voilà, on va terminer sur une autre. On va terminer cette question sur une autre leçon magnifique de développement personnel. Comment dire ? Ceux qui n'ont jamais échoué, bien souvent, c'est soit parce qu'ils n'ont jamais essayé, soit parce qu'ils n'ont jamais pris beaucoup de risques. Et ben voilà, de quelle catégorie de personnes t'as envie de faire partie ? Ben écoute, je sais pas. En tout cas, quand j'entends l'intro de ce podcast, je pense que je me fais une petite idée. En tout cas, je sais dans quelle partie je m'inclus, donc j'ai quand même envie de prendre des risques. Et justement, on va peut-être y revenir un petit peu. Parce que la prochaine question, c'est est-ce que tu peux rappeler la date de tes courses ? Est-ce que tu vises un chrono sur ces courses ? Alors, j'ai agrégé certaines questions parce qu'on m'a posé ça pour chacune de mes courses. Quel chrono tu vises pour toutes les courses que j'ai annoncées, c'est-à-dire pratiquement trois courses ? Effectivement, je vais rappeler ces dates et je vais poser un peu des chronos pendant que j'y suis. Juste avant, si ce podcast te plaît, n'hésite pas à mettre 5 étoiles sur Spotify et sur Apple Podcast quand tu en as l'occasion. Ça fait plaisir, ça rémunère gratuitement de quelques secondes de ton temps ce podcast. Et moi, ça me fait plaisir de voir que beaucoup de gens l'apprécient. Et évidemment, ça aide aussi d'autres personnes à tomber dessus plus ou moins par hasard. Alors, par rapport au rappel de mes dates, oui, alors il y a 3 événements. Il y en a même 4. Vas-y, je vais te balancer le 4e dont je n'ai encore jamais parlé. Premier événement, semi-marathon de Genève le 5 mai 2024. Donc je serai au semi-marathon avec des proches à moi qui vont courir leur premier semi-marathon, comme je l'ai mentionné. On m'a demandé quel est ton objectif en semi. En fait, je l'avais pas précisé, c'est normal, mais je n'y vais pas pour faire une perf. Je n'y vais pas pour faire une perf au semi. Pourquoi ? Parce que précisément 2 semaines après, j'ai mon Ironman 70.3 à Aix-en-Provence. C'est donc une course Ironman où toutes les distances sont la moitié de la course finale, c'est-à-dire 1,8 km de nage, 90 km de vélo suivi d'un semi-marathon, c'est-à-dire 21 km de suite. Et c'est 2 semaines après le semi. Donc le semi, j'y vais uniquement pour accompagner mes proches qui y vont. J'y vais pas pour faire une perf. Je vais y aller en mode footing, endurance fondamentale. Je vais courir tranquillou. Ce sera ma sortie longue, hein. Fin de semaine, j'ai 1h40 à faire. La dernière fois que j'ai eu 1h40 de course à pied à faire, j'ai fait un semi-marathon parce que j'ai dû aller vite, un peu sur la fin. J'ai battu mon record d'ailleurs au semi-marathon. C'est dire qu'effectivement, en n'étant pas fatigué et sur une prépa semi, j'espère que je pourrai aller gratter un petit 1h30 quand même. Mais clairement, je ne vais pas essayer ça. J'essaierai un jour, je ferai une prépa semi pour aller poser un petit record quand même. Mais non, là, j'imagine, ça va durer entre 1h45 et 2h, mon semi. Je vais le courir tranquillou. Peut-être je vais le courir avec un des potes qui va le faire, parce que peut-être que lui, il va viser sous les 2h, donc peut-être je courrai avec lui. Et puis, on verra bien. Mais tout ça pour dire, il y a ça. Ensuite, le 19 mai, j'ai donc l'Ironman à Aix-en-Provence. D'ailleurs, il y aura une petit événement là-bas. En fait, Ironman France m'a gentiment offert la participation à cela, donc je les remercie. Tout comme le Generali Genève Marathon m'a aussi invité au semi-marathon de Genève. Voilà, ils m'ont invité, ils m'ont offert le dossard, donc je le précise et je les remercie. Et donc, il y aura une petite rencontre aussi « abonné », entre guillemets, je crois, la veille. Enfin, abonné vite fait, c'est-à-dire que la veille du semi-Ironman, eh bien, il y aura moyen de voir du monde. En tout cas, je serai là-bas. Qu'est-ce que je vise pour ça ? Alors, il y a un dénivelé raisonnable sur cet Ironman 70.3 en vélo. Et il y a quelques petites montées-descentes, je crois, pendant la course à pied. Bref, ce n'est pas une course facile pour ces distances, parce qu'évidemment, une compétition, une course de triathlon, la difficulté, les distances sont les mêmes, mais les distances sont les mêmes peu importe le dénivelé. C'est-à-dire que si il y a 14 montagnes à gravir à vélo, tu vas quand même faire tes 90 km ou tes 180 km. C'est juste que peut-être que tu vas galérer comme un fou dans la montée. C'est pour ça que toutes les courses ne se valent pas, que tous les chronos ne sont pas vraiment comparables. même si on aime bien quand même utiliser ça pour faire un petit concours de beats, parce que franchement, pourquoi s'en priver ? Tu vois, c'est pour ça que pour ton meilleur PR marathon, il faut que tu ailles sur une course facile, genre Berlin, Valence, apparemment, c'est des courses réputées pour faire des records parce qu'il n'y a pas trop de dénivelé. Bref, ça, c'est autre chose. Comment dire ? Bah, pour cet Ironman 70.3, tout comme pour le full Ironman, c'est-à-dire parce que je peux donner mes chronos pour tous les deux. Pour le full, moi si j'ai commencé là-dedans, c'est pour faire l'Ironman définitif. C'est pas vraiment pour faire l'Ironman 70.3. Ça, c'est plutôt une grosse répétition. C'est une première expérience. Ça va être génial. Je vais pouvoir m'entraîner aux transitions aussi pour passer de la nage au vélo et du vélo à la course. C'est très important. D'autant plus, il y aura faire le check-in du vélo, amener le vélo là-bas, enfin voir comment ça va se passer. Comme ça, le jour J, j'aurai déjà vécu ça avec la même organisation. Comme ça, je sais à quoi m'attendre. Pour faire le meilleur chrono possible le jour J, parce que j'y vais pas juste pour le faire et le finir cet Ironman. Sinon, je vais pas mentir, j'aurais pas besoin d'en faire autant en termes d'entraînement, de faire aussi difficile. Ça, c'est un choix, hein, c'est un choix avec mon coach et avec moi-même, qui est que bah oui, je pourrais compléter un Ironman. Là, je pense que je pourrais déjà le faire, tu vois, quelque part. Tu me laisses 2 semaines pour me reposer et puis ensuite, je peux me pointer à l'Ironman et puis. J'y vais tout doucement et puis ça devrait le faire. J'y vais à la brasse. Là, j'ai une condition physique et une technique dans les trois disciplines qui, je pense, serait suffisante pour m'en sortir sans mourir. Mais j'ai envie d'un peu plus que ça, tant qu'à faire, parce que je vais probablement pas en faire 14 dans ma vie des Ironman. Je pense pas que je vais être ce genre de mec à aller faire des doubles Ironman ou alors en faire 14 pour améliorer mon chrono, tu vois. L'avenir nous le dira, hein, parce que je pourrais très bien être le genre de mec qui, à 52 ans, se dit « Hey, est-ce que j'arrive toujours à faire un Ironman ? Allez, let's go, on va voir !» Mais bon, ça on verra quand j'aurai 52 ans. Tout ça pour dire que j'ai envie de le terminer, oui, mais j'ai envie d'être fier de moi et j'ai envie d'avoir exploité mon potentiel autant que je l'ai pu dans le cadre que je me suis laissé pour cette prépa, c'est-à-dire en mettant cette prépa assez prioritairement dans mon quotidien. Donc, il me faut des objectifs ambitieux. J'ai envie d'avoir des objectifs ambitieux liés à ça. Et je reviens sur ce que j'ai dit juste avant par rapport à prendre des risques, etc. Forcément, que si je me disais, bon, bah, j'ai juste envie de pouvoir le terminer en 15 heures, l'Ironman, comme je l'ai dit, je pense que j'en serais gentiment capable avec un peu de repos, là. Ce serait prendre moins de risques. Prendre pas assez de risques à mon goût, quelque part, parce que j'ai quand même envie qu'il y ait un enjeu. Donc, trêve de bavardage, je pense que sur Aix-en-Provence, si j'arrive à faire moins de 5h30, ça serait bien. Ça serait entre 5h et 5h30, je serais tout à fait content, même si je ne me représente pas complètement tout ce que c'est et ce que ça veut dire, parce que j'ai pas vraiment de point de référence. Mais j'aimerais bien faire ça. Et là, je te parle évidemment de chrono, si tout se passe bien, si je ne me pète pas la gueule à vélo, etc., etc. Et pour le full Ironman, moins de 11 heures, je pense que je ne me fixerai pas d'objectif plus long que ça. C'est-à-dire moins de 11 heures, ça me plairait bien, ça me semble justement ambitieux, mais possible. Et puis à partir de là, ce sera que du bonus. Mais on verra. Tout ça pour dire, j'ai envie que ce soit ambitieux. J'ai envie de me rapprocher un peu de mes limites à ce niveau-là. J'ai envie qu'il y ait des possibilités, en fait, quelque part. J'ai envie qu'il y ait des risques non négligeables que j'y arrive pas, quand même. J'ai envie de ressentir du stress, de la pression. J'ai pas envie de vivre un échec cuisant. On est bien d'accord. Mais j'ai pas énormément de gros échecs qui me viennent à l'esprit dans mes souvenirs. Sportivement, j'ai pas de souvenirs de gros échecs. Aussi parce que j'ai pas pris beaucoup de risques. Qu'on se le dise, c'est vrai que dans ma pratique de la musculation et du street workout, bah, j'ai pas vraiment fait de compétition, j'ai pas vraiment eu d'échéance, de deadline et tout. Je l'ai fait pour mon plaisir, je l'ai fait comme ça. Et j'ai pris un petit peu goût à cet aspect un peu plus compétitif qu'on retrouve dans les courses d'endurance. Et on est très loin de l'aspect compétitif qui est encore très différent dans un sport individuel comme le tennis ou dans un sport individuel comme le MMA, par exemple. Là, on est à des niveaux de compétitivité qui dépassent largement celui d'un petit marathon où personne n'interagit vraiment les uns avec les autres, tu vois. Mais on est tous ensemble dans une émulation collective qui est magnifique. Et à part les 10 premiers, ben, on est en compétition contre soi-même, principalement. Et il n'empêche que ça, je l'avais assez peu fait. Donc, j'ai envie de prendre un peu plus de risques. Et puis, voilà, au pire, je foire et j'apprends, tu vois. Je l'ai déjà dit, donc j'espère pas, sa mère. J'espère pas, quand même. J'espère que ça va bien se passer. Mais voilà un petit peu mes prédictions. Et j'avais dit que je balançais la quatrième date. Il y a des chances raisonnables que je fasse le triathlon de Genève. Le Latour Triathlon de Genève qui m'a contacté aussi. Je crois que c'est le week-end du 6 et 7 juillet. Donc, voilà, ils ont différents formats qui vont jusqu'au half. Mais peut-être que je ferai une distance olympique, histoire de changer. La distance olympique du triathlon, c'est celui qui se passe, du coup, aux Jeux Olympiques. Avec sauf erreur, je crois que c'est quelque chose comme 1500 mètres de nage, 40 km de vélo et 10 km de course à pied, si je ne me trompe pas. Je crois que c'est ça. Et c'est quelque chose de plus soutenu, hein, parce que plus les triathlons sont courts, plus tu es en train de sprinter tout le long. Le triathlon S, tu termines par un 5 km. Toi-même, tu sais, si tu as déjà fait un 5 km max, que le 5 km max, c'est hardcore. Bon, le 10 km, c'est hardcore aussi, donc si tu le fais à fond. Bref, ouais, c'est possible que je sois présent aussi là-dessus. Et là, j'ai pas du tout de chrono en tête pour ça. Ce sera pour le kiff et pour m'entraîner aux transitions et à l'expérience. Et je vois que cet épisode avance à bons pas. Donc clairement, je pense qu'on va se contenter de tout ce qui est sport, triathlon et tout pour cet épisode. Question suivante. Un petit morceau aussi, c'est une question que j'ai eu pas mal, sous différentes formes on dira, c'est comment tu fais pour avoir toute cette discipline? Alors, quand j'ai vu ça, et j'ai vu des commentaires aussi, typiquement des commentaires sur Strava par exemple, ou même en réponse à mes stories Instagram, en mode « Waouh, quelle discipline !» etc. etc. Et ça m'a fait bizarre quand j'ai vu ces commentaires. J'en ai parlé à ma copine, j'ai pas mal parlé à ma copine de tout ça, bon évidemment parce qu'elle partage ma vie et que c'est une grande partie de ma vie actuellement tout ça, mais aussi hier soir on a passé beaucoup de temps, on a passé des heures ensemble à discuter et on est parti un peu de ma story Instagram avec les questions et puis je regardais les questions et puis je disais des questions que vous m'avez posées sur Instagram pour cet épisode, je les disais à haute voix et on en discutait avec ma copine pour elle, pour moi. Il y a aussi des questions qui la concernaient un petit peu, enfin voilà, vis-à-vis de ça. Donc c'était marrant et j'ai parlé un peu de ça avec elle. C'est que en fait, c'est marrant quand on loue quelque part ma discipline vis-à-vis de ça, parce que je l'ai dit et enfin je le dis parce que je le pense et que c'est la vérité. Je le dis pas pour faire le mec, sincèrement. Je n'ai pas de discipline à dépenser du tout pour m'entraîner. Pour mon Ironman, pour aller m'entraîner à la salle, pour aller courir, pour faire tout ça, je ne dépense pas de discipline ou très peu quand les conditions sont vraiment terribles, que je dois aller faire du vélo dehors et qu'il pleut, que ça me tiasse le cul, là un petit peu. Mais en règle générale, en moyenne, très très peu. C'est juste, c'est beaucoup de temps et d'énergie à faire. Donc évidemment, ça me fatigue de le faire. Et plus je suis fatigué, plus forcément à la fin de la journée, t'es toujours un peu moins discipliné parce que t'es plus fatigué, etc. Donc physiquement, ça me fatigue, mais mentalement, je n'ai aucune résistance à aller m'entraîner. C'est justement la réponse à pourquoi cela. C'est une des plus grosses et des plus fortes habitudes que j'ai ancrées dans ma vie. En fait, clairement, je n'ai pas besoin de motivation. Je n'ai pas plus, pardon, parce qu'évidemment, c'est important de le préciser, je n'ai plus besoin de motivation quasiment tout le temps. Je n'ai plus besoin de discipline. Pour aller m'entraîner, hein, je contrains cela au domaine du sport, principalement, parce que ça fait 16 ans que j'ai commencé la muscu. Et avant, je faisais d'autres sports, comme j'en ai déjà parlé un petit peu, mais pour moi, c'est pas comparable. C'est vraiment à partir de mon arc musculation à 17 ans, où j'ai commencé à faire un sport tout seul, auto-imposé, pas un sport d'équipe comme je faisais avant, un sport où tout le monde s'en fout, enfin, tout le monde s'en fout. Il n'y a pas de compétition, il n'y a pas d'enjeu. Quand je faisais du uni-hockey ou différents autres sports que j'ai fait avant, il y avait des compétitions, il y avait des coéquipiers, il y avait quelque chose de différent. Là, ça fait 16 ans que je fais de la muscu et que je vais m'entraîner religieusement, si je puis dire, au moins 3 fois par semaine, quasiment toutes les semaines de ma vie. Donc en fait, quand ça fait 16 ans que tu fais ça, c'est... il y a plus de discipline. Le stade numéro un, c'est d'être motivé, c'est d'avoir de la motivation pour faire quelque chose. Le stade numéro deux, c'est tous des trucs qui sont assez valorisés, mais et qui sont un peu rabâchés un peu sur les réseaux sociaux aussi. Mais il y a évidemment toujours une partie de vérité, encore plus à ce niveau-là. C'est que quand la motivation n'est pas là, c'est bien d'avoir de la discipline pour prendre le relais, mais éventuellement, pour des choses qui sont suffisamment grandes, suffisamment importantes pour toi, à un moment donné, tu n'as pas envie d'avoir à recourir à la discipline tout le temps. Et le stade d'après, c'est de réussir à en faire une habitude. Une habitude, par définition, c'est automatique, ça demande beaucoup, beaucoup moins d'efforts, tu n'as même pas vraiment besoin d'y penser, ou en tout cas, et c'est ce que j'ai dit juste avant, il y a beaucoup moins de résistance mentale à l'idée de le faire ou d'y aller ou de faire cette chose. Et c'est clairement mon cas pour le sport. Donc voilà, la discipline dans le sport, je l'ai beaucoup entraînée et c'est pour ça, en fait. Donc il ne faut surtout pas te dire, et j'en reviens aussi à ça, il ne faut pas que tu te dises à tort et à travers quand tu vois des gens, d'autant plus des gens que tu ne connais pas, comme moi par exemple, ou d'autres personnes, ou même ton pote, même ton pote d'ailleurs, « Ah putain, lui, il est super discipliné, il a de la chance », ou alors plutôt « Vas-y, j'aimerais bien être aussi discipliné que lui ou que elle, moi je suis moins discipliné, etc. » Alors il peut y avoir débat à ce propos, mais je pense que c'est comme pour tout. Il y a peut-être une partie vite fait, probablement, de talent ou de génétique, on dira, c'est-à-dire de prédisposition biologique à être discipliné, tout comme il y en a peut-être. Voilà, ça dépend aussi de ton éducation, de ton environnement, de comment tu as été éduqué dans ta jeunesse, etc. Tout ça, il y a certaines bases qui sont là et avec lesquelles tu peux travailler, mais il y a une marge de progression qui est énorme. Et c'est le cas pour ça. Faut pas te dire « je suis une merde parce que X ou Y est discipliné, il va tout le temps faire du sport ». C'est juste que X ou Y, il a l'habitude de le faire depuis très longtemps. Donc c'était dur pour... T'inquiète pas que c'était dur pour elle ou pour lui à l'époque où il ou elle en était au même stade que toi. Évidemment, on a tous nos différents stades de progression et rapidité de progression. Évidemment, si tu aimes bien ce que tu fais, si tu es dans un bon système avec un bon feedback, comme j'en ai parlé dans plein d'épisodes, j'ai déjà fait des épisodes sur les objectifs, sur les habitudes. Donc je te les recommande si jamais c'est quelque chose que tu as envie de travailler. Il y a plein de très bons livres aussi là-dessus, de vidéos, enfin bref. T'inquiète pas que les êtres humains du 21e siècle, ils ont bien poncé le sujet des habitudes et du dev perso autour de ça, j'ai l'impression. Donc voilà, mais c'est normal. Moi, clairement, au début, c'était pas facile d'aller à la muscu, encore plus pendant les trois premières années, surtout pendant les trois premières années où, en fait, j'y allais quand même, mais j'avais zéro résultat et c'était compliqué. Bref, c'est des choses que j'ai dû expliquer. Pour la course à pied, c'était difficile aussi au début, mais heureusement, je pouvais déjà construire sur la discipline que j'avais travaillée dans ma muscu avant et dans mon travail, dans mes études, dans tout ton parcours de vie. Et donc, la discipline que tu apprends, par exemple, dans le sport ou dans n'importe quel domaine, est quand même assez générale, j'ai l'impression. C'est-à-dire que si tu es très discipliné dans un domaine, quand même, tu devrais pouvoir en profiter dans d'autres domaines de ta vie, mais ça reste aussi assez, assez spécifique. Clairement, j'ai l'impression d'être assez ou bien discipliné dans mon travail, dans ma vie professionnelle, mais quand même moins que dans le sport. C'est beaucoup plus facile pour moi de me dire « bon, il faut que j'aille m'entraîner, vas-y, je vais m'entraîner du coup, j'ai même pas besoin de réfléchir ou de me demander comment je me sens à ce propos, ou en fait, j'y pense même pas, c'est juste automatique ». Versus pour travailler, pour faire certaines choses, clairement, des fois, j'ai plus besoin d'être un peu plus motivé ou bien de faire preuve de discipline. Et ça dépend évidemment de certains enjeux. Ça reste aussi conditionné justement aux enjeux et aux échéances. C'était plus facile pour moi d'être discipliné dans mes études parce qu'il y avait des examens fixés à partir du moment... Au jour desquels il fallait que je sois prêt et donc il fallait que je sois relativement discipliné pour pouvoir réussir à les passer, etc. Tu connais, là, au jour actuellement, typiquement, j'ai pas beaucoup d'échéances hardcore qui ont été imposées par quelque chose d'externe au niveau de mon travail. Donc j'en ai beaucoup moins aujourd'hui, en tout cas, d'échéances. Et ça aussi, je pense que, parce que c'est vrai que dans mon travail, tout est relativement auto-imposé. Mine de rien, je dois me fixer mes propres objectifs professionnels, me faire travailler moi-même, etc. Donc c'est différent de la situation de beaucoup d'autres personnes, mais on y a tous plus ou moins goûté, ne serait-ce que dans le cadre académique, à l'école, il faut quand même se forcer à se faire travailler un peu, même si on a quand même ce cadre qui nous aide souvent. Aujourd'hui, j'ai moins de raisons d'être discipliné, donc j'ai peut-être plus de difficultés à être discipliné dans mon travail, là où au tout début... quand quelque part il y avait plus la peur au-dessus de moi de l'échéance, c'était Eric, si tu travailles pas comme un enculé, en fait, si je puis me permettre, ton projet va mourir, tu auras lancé ton truc sur YouTube, tout ça, tu l'auras foiré parce que t'auras pas été assez discipliné, typiquement. Tout le monde va voir que tu t'es foiré, tu vas devoir aller trouver une excuse sur ton CV pour expliquer pourquoi il s'est passé ci, il s'est passé ça. Enfin bref, ce sera pas agréable. Donc j'étais d'autant plus discipliné dans ces conditions, à pas se mentir, quand il y a un cadre une motivation, voilà. Il y a différentes sources de motivation, voilà. Il y a la peur et il y a le plaisir, hein, qui peuvent te motiver. La discipline, ça aide. Mais il y a des tâches pour lesquelles je ne suis pas discipliné, et on en a tous, je pense. Les tâches administratives, il y a vraiment certains trucs, j'en ai vraiment... C'est ce que je dis des fois, mais j'en ai un peu rien à foutre des fois, vraiment. Il y a certains trucs, ça ne m'intéresse tellement pas. Enfin, moi, je suis un peu comme ça, forcément, un peu extrême dans certaines façons de vivre ma vie. Voilà, je pense que tu l'auras peut-être compris. Et moi, j'essaye d'en faire une force, hein, bien sûr. C'est l'idée que je fais avec ça. Et je le cultive aussi, étant donné que j'ai envie d'en faire une force. Il y a certains trucs, je m'en fous. Ça m'arrive, rien que là, j'ai une pile de courriers à côté de moi, là, sur mon bureau. J'ai une pile de courriers que je n'ai pas ouvert depuis, je pense que j'ai pas ouvert mon courrier depuis 2 semaines et demie, facilement. Peut-être même 3 semaines pour les plus vieilles. Bah, ça me saoule, en fait, ça me saoule. Et du coup, je reçois des rappels parce que je paye pas mes factures. J'ai toujours pas fait ma déclaration d'impôt 2023. D'ailleurs, je crois que la deadline, c'était fin mars. Voilà, je suis pas discipliné pour ça. J'ai du mal à me motiver et à me discipliner pour faire certaines choses. Voilà, payer mes factures, c'est beaucoup plus dur pour moi que d'aller m'entraîner. Enfin, j'exagère. Enfin, tu vois, est-ce que c'est comparable? Parce que c'est pas le même effort, etc. Tu vois, c'est comme si je te disais, waouh, putain, bravo à toi, t'as vraiment beaucoup de discipline pour te brosser les dents tous les jours, tu vois. Tu me dirais, ouais, bon, bah écoute, c'est facile, en fait, hein, j'ai l'habitude, ça fait longtemps que je le fais, on m'a appris quand j'étais petit. Bah écoute, moi, le sport, c'est peut-être aussi plus facilement ça. Alors, c'est pas comparable, se brosser les dents et faire du sport, il y a quand même pas la même dimension d'effort physique. Mais tu m'as compris, il y a quand même un petit parallèle. Donc voilà, pour faire un petit détour pendant que j'y suis sur la discipline et sur l'entraînement de la discipline, évidemment que je peux que te recommander d'entraîner activement ta discipline. Et la meilleure façon de le faire, c'est de te mettre dans les bonnes conditions pour que tu n'en aies pas besoin au maximum, pour que ça devienne des habitudes. Parce que les gens qu'on a l'impression, justement, c'est un peu la conclusion à laquelle j'arrive, c'est que certaines personnes, t'as l'impression qu'elles sont super disciplinées. Mais c'est qu'en fait, ces personnes ont réussi à intégrer comme habitude certaines choses que toi, tu vois comme étant très attirantes ou que tu admires quelque part chez ces personnes. Par exemple, tiens, lui, il n'a pas de problème à faire du sport. Tiens, lui, il n'a pas de problème à travailler 12 heures par jour. Il est très discipliné. C'est aussi quelque chose qu'on regarde parce que j'aimerais bien être plus comme ci, comme ça. Mais tout ça pour dire que c'est sûr que tu as certains domaines où tu es très discipliné, où tu l'es moins, où tu es meilleur que moi, où, etc., etc. Et si t'en manques, ça vient vraiment par la force de la répétition, aussi par le rationnement de la discipline quotidienne. Tu vois, on se réveille tous les jours avec une jauge de discipline, un peu comme dans les jeux vidéo. Et en fait, tu peux aussi améliorer ta discipline, pas juste en étant plus discipliné, mais en utilisant plus efficacement ou différemment ta jauge de discipline. Un peu comme dans Zelda, tu vois, j'essaie de faire une petite image. Dans Zelda, tu vois, dans les jeux vidéo, en haut à droite, tu as la petite barre de cœur. Et même, bah, dans Zelda aussi, t'as la petite barre de magie. T'as la petite jauge verte de magie que tu peux dépenser pour faire des attaques magiques. Eh bien, la discipline, c'est pareil. T'as une petite jauge de discipline qui se re-remplit, disons, normalement, si tu dors raisonnablement bien, elle se re-remplit tous les matins. Et tu as différentes façons de l'utiliser. Tu peux apprendre à utiliser ta jauge de discipline de façon plus intelligente, on dira. Je sors ça un peu de mes fesses, hein, donc voilà. Excuse-moi si les termes sont peut-être pas super bien choisis. Par exemple, à chaque décision que tu prends, ben, tu as besoin de discipline. Et même des décisions un peu bébêtes, un peu inutiles, ben, parfois on les prend tous les jours, on les prend aussi en début de journée, et ça commence à éroder un peu comme ça notre jauge, ça commence à baisser notre jauge de discipline. Des exemples, bah, si tu passes toute ta matinée à te demander « Bon, qu'est-ce que je mets comme t-shirt aujourd'hui ? Ok, est-ce que je mets ces chaussures ? Est-ce que je mets ce parfum ? Qu'est-ce que je mange ce matin ? Bon, est-ce que je mange des œufs ? Non, je vais peut-être plutôt manger une tartine. Ah, mais si je mange une tartine, c'est un peu la merde. Ok, bon, comment est-ce que je vais au taf ? Je peux prendre le métro, je peux y aller à vélo, mais il pleut. Qu'est-ce que je vais manger ce soir ? Putain, il faut que j'aille faire les courses. Est-ce que je vais faire les courses à Carrefour ? Est-ce que j'y... C'est fatigant. Ça te fatigue rien que de m'entendre penser à voix haute. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, c'est un exemple. C'est parfois observer ton environnement, ta routine, tes rituels et te demander, ok, est-ce que dans mon rituel journalier, hein, après tu peux dire dans ma routine matinale, tu peux réduire ça à n'importe quelle partie de ta journée, est-ce qu'il n'y a pas une certaine façon que je pourrais faire de... est-ce que je pourrais pas réorganiser des choses ou réarranger, supprimer certaines choses, simplifier certaines choses pour ne pas avoir à me poser 14 questions. Quelle tasse est-ce que je vais choisir pour mon café aujourd'hui ? C'est pas le genre de décision que j'ai envie personnellement d'avoir à prendre le matin. J'ai une seule tasse, c'est toujours la même. Je la prends, je mets mon café, etc., etc. Les t-shirts, les vêtements, tout ça, c'est personnel, mais c'est vrai que j'ai pas envie d'avoir à me poser de questions sur quel vêtement je vais mettre aujourd'hui. Donc je mets souvent les mêmes choses. Voilà, à toi de voir comment tu peux, par exemple, utiliser ta jauge de façon plus intelligente. Par exemple, pour Link dans Zelda, eh bien, pour ta jauge de cœur. Tu peux te demander, bah tiens, putain, j'ai que 4 cœurs, il faut bien que je les utilise, peut-être que je peux éviter cet affrontement avec un ennemi, histoire de pas mettre en danger mes cœurs, tu vois, on va réfléchir plus stratégiquement, on va éviter l'affrontement, on va contourner. Ou alors, est-ce que je ne peux pas battre cet ennemi juste avec des coups d'épée, ou au lance-pierre de loin, plutôt qu'en utilisant ma jauge de magie ? Bon, je sais pas si cette image est parfaite, mais je me suis engagé dans cette image de comparaison de jeux vidéo, donc je vais aller jusqu'au bout, figure-toi, je ne sais pas où ça va me mener, je vais aller jusqu'au bout. Une autre façon de préserver, enfin, tu vois, tu peux utiliser ta discipline de façon plus intelligente, et l'autre façon qui me vient en tête, c'est de l'utiliser de façon plus efficiente. C'est-à-dire que, typiquement, pour une seule et même décision, ça te demande moins de discipline. Et là, la force de la répétition, la force des habitudes, la force aussi de bah, tout ce qui englobe le fait de créer une bonne habitude, ce que j'ai déjà bien abordé dans un ancien épisode de podcast, donc je ne vais pas refaire toute la liste de tout ça, mais typiquement, modifier ton environnement pour que ça soit plus facile, pour que tu aies moins de discipline. Si à chaque fois que tu passes tu passes dans ta cuisine, ben, t'as 14 paquets de chips en évidence et que t'es en train d'essayer de perdre du poids, ben, alors là, tu vas devoir faire preuve de discipline pour ne pas prendre des chips à chaque fois, et c'est un peu inutile. Modifier ton environnement, ça peut aider. Réduire la friction autour de certaines actions qui sont importantes pour toi, ça va te permettre de les rendre plus faciles et donc de diminuer la quantité de discipline dont tu auras besoin pour faire cette action. Si tous les matins, mes affaires de triathlon pour la journée sont déjà prêtes et j'ai qu'à sauter dedans pour vite aller à la piscine le matin, c'est un petit peu plus facile que si tous les jours, je dois aller chercher mon maillot de bain quelque part ailleurs, etc. Tu vois, modifier un peu ton environnement, rendre la chose plus facile, réduire la friction qu'il y a à faire des actions. Ça te permet en fait de rendre chaque action qui demande de la discipline plus efficiente, et donc à chaque décision que tu as à faire et à prendre, eh bien tu uses moins ta jauge. Par exemple, c'est comme quand dans Zelda... Vas-y, comment je vais faire ça ? C'est comme quand dans Zelda... Bah, c'est comme quand dans Zelda, tu changes d'armure. T'as une meilleure armure ou t'as un bouclier, ce qui fait que quand tu te prends un coup, eh bien, ta jauge de cœur, elle diminue moins. Tu vois, tu deviens plus résilient, tu deviens plus résistant. À force, évidemment, d'entraînement, de level up, bien sûr. Pour la magie, eh bien, pareil, tu passes de Link enfant à Link adulte parce que tu as retiré la Master Sword. Donc, maintenant, tu es devenu un grand Link. Et le grand Link, qu'est-ce qu'il a? Bah, évidemment, il est plus mûr, il est plus mature, il est plus fort, il est adulte, il a plus d'expérience, il a plus de bagages dans sa vie, tu vois. Et donc, maintenant, quand il concentre le tourbillon, quand il appuie sur B, qu'il laisse enfoncer, qu'il concentre le tourbillon, puis que l'épée devient bleue, jusqu'à ce que tu fasses un tourbillon avec plein de magie qui part autour de toi, bah là, ça dépense moins de magie. Parce que bah, t'es devenu adulte et il a fait les répétitions. Sauf que lui, en fait, il a triché, tu vois. Il a suffi de retirer une vieille épée, on s'entend, mais une vieille épée d'un socle. Et le mec, tout de suite, il grandit, il devient un adulte. Il n'a pas eu de rituel de passage à l'âge adulte, lui, Link, tu vois. Dans les jeux vidéo, c'est toujours plus facile, on va pas se mentir. La phase chiante où il a fallu s'entraîner pendant longtemps pour devenir grand et plus fort et mieux utiliser la magie, on la voit jamais. C'est comme dans les films, c'est comme dans les vidéos YouTube aussi parfois. C'est comme dans les films où t'as le montage stylé de Rocky dans de Rocky qui j'ai jamais vu Rocky, putain, je sais pas pourquoi je parle là-dedans parce que j'ai déjà entendu cet exemple, mais c'est comme dans n'importe quel film où t'as un montage en musique où le mec s'entraîne, c'est comme dans Mulan, voilà, Mulan le Disney, hein, moi j'ai adoré ce passage, enfin Mulan, j'ai beaucoup aimé ce Disney. Parce que il y a aussi ce montage où ça va vite, elle est dans le camp d'entraînement, Mulan, et puis elle apprend à pêcher avec les mains, elle apprend à tirer à l'arc, et en fait, elle devient super forte en tant que soldat, comme As. Petit montage, une belle musique, ça va vite, tu passes de zéro à héros, littéralement, dans le Disney, ouais, ça prend 5 minutes, et boum, t'as toute la gratification quand tu vois ça, toi, en tant que spectateur, tu dis, oh, putain, c'est trop stylé, j'ai envie de faire pareil, sauf que dans la vraie vie, en fait... Dans la vraie vie, ça prend plus de temps. Je l'ai remarqué dans ma prépa Iron Man, parce que t'inquiète, quand tu vas regarder mes vidéos, tu vas te dire « Ah putain, ça passe vite, hein. Franchement, 9 mois, c'est quelques dizaines de minutes de vidéo. » Bah ouais, mais les 4h30 de sortie longue de vélo, je peux t'assurer que si je te faisais une vidéo de 4h30 pour la sortie longue de vélo, on se ferait bien chier, ça ferait bien chier. Bref, où est-ce que j'en étais? Oui, voilà, ben, utiliser ta discipline de façon plus intelligente et de façon plus efficiente, tout comme avec l'âge, avec tout ça, tu peux augmenter ta jauge à force d'entraînement, à force de maturité, à force d'expérience acquise. Voilà, Link, à un moment donné, il trouve la grande fée dans la montagne, et la grande fée dans la montagne, elle lui offre une extension de sa jauge de magie. Voilà, Banger, il suffisait de poser une bombe devant le mur à l'entrée, puis hop, elle était là derrière, en fait. Elle attendait là depuis des millénaires. Elle attendait que Link vienne pour qu'elle puisse lui offrir le don de la magie. Tout comme, bah voilà, une meilleure image peut-être. Quand tu affrontes un boss, quand tu sors d'un donjon, eh bien, le boss, qu'est-ce qu'il laisse derrière lui? Il laisse un réceptacle de cœur. Et là, tu passes de 4 à 5 cœurs de vie. Et BG, t'as augmenté ta jauge parce que t'as dû aller affronter le dragon. Tu as dû aller déjouer tous les pièges du Temple du Feu. Tu as dû aller péter la gueule à Ganondorf. Et donc, tu es récompensé en échange. Parce que dans les jeux vidéo, c'est assez linéaire, c'est très satisfaisant. Tout est réuni pour que ça marche. Bref, cet épisode est assez long, mais je vais quand même continuer avec les quelques petites dernières questions que j'ai aussi teasées en début d'épisode, donc ça me ferait mal de t'en priver, on dira. Très rapidement, j'avais une petite question encore, mais j'avais trouvé une réponse plus intéressante. J'ai trouvé une nouvelle réponse à la même question, donc je vais me permettre. C'était quels sont tes objectifs après l'Iron Man, etc. Je voulais justement rappeler quelque chose, faire un parallèle un peu avec tout ça, qui m'a traversé l'esprit aussi, c'est qu'on me demande mes objectifs après l'Iron Man et tout, mais en fait, comme si j'allais forcément aller faire un truc encore plus ouf d'un point de vue sportif. Alors peut-être que oui, franchement, j'en sais rien pour l'instant. Mais je serais assez tenté aussi de changer de nature d'objectif après, tu vois. Il n'y a pas que dans le domaine du sport qu'on peut se fixer des objectifs ou qu'on peut... Parce que tu vois, on a tendance, et c'est quelque chose qui est beaucoup vu sur le terrain de façon anecdotique, hein. Quelqu'un qui fait un marathon, il a quand même plus de chances derrière, quand il est motivé, d'aller chercher quelque chose d'un petit peu plus dur qu'un marathon, ou alors de faire un marathon plus rapidement, versus, bon, bah, je vais me contenter maintenant de faire à nouveau des marathons, mais je vais les faire deux fois plus lentement, tu vois. Il y a quand même un petit peu cette recherche de progressivité et cette vision qu'on peut avoir dans le sport du toujours plus. C'est personnel. Parfois, ça peut être néfaste pour la personne, j'imagine. Parfois, ça peut être parfaitement vertueux. Ça dépend beaucoup de chaque personne et des motivations et du pourquoi derrière, on dira. Mais j'ai l'impression, tout comme on parle du blues post-compétition, tu vois, le blues post-marathon, qui en fait relève du vide que tu ressens peut-être à la suite de quelque chose qui te prenait tellement la tête quelque part, même sans que ça soit négatif, ça te prenait tellement la tête, t'y pensais tellement souvent, tu passais tellement de temps et d'énergie autour de ça dans ta semaine, que quand ça disparaît, t'as un petit blues, un petit coup de mou. Moi, j'ai pas ressenti ça après mon marathon, j'avoue. Et aussi parce que je savais un peu vers quoi je me dirigeais, j'avais envie de refaire plus de vidéos, j'avais envie de refaire plus de musculation, de repartir dans la muscu, j'ai fait ma petite transformation vite fait, parce que c'est vrai que j'avais perdu quelques kilos après ma prépa marathon, et donc j'étais trop content de revenir, hey, je vais me remettre à fond dans la muscu et tout, je vais reprendre un peu ce que j'ai malheureusement perdu en faisant moins de muscu sur la fin de la prépa. Et c'était sportif, mais sans qu'il y ait de compétition. Mais en gros, alors peut-être que je ferai d'autres compétitions sportives, c'est quasiment certain, figure-toi. Mais c'est vrai que me fixer un objectif plus précis, plus ambitieux professionnellement, ça serait intéressant. Ça pourrait être d'un point de vue du business, ça pourrait être au point de vue de la boutique, ça pourrait être du point de vue de la création de vidéos, ça pourrait être d'autres choses, ça pourrait être écrire un livre, par exemple. Même pour toi, pour n'importe qui, ça peut être apprendre d'un instrument de musique, ça peut être dans l'art, ça peut être dans plein de choses. Pas obligé de remplacer le sport par le sport, c'est ça que je trouvais intéressant, ou pas obligé de remplacer le sport par encore plus de sport, même si ça peut se faire aussi, comme je l'ai dit, sans aucun problème. Ce qui manque surtout, je pense, quand tu as terminé cet accomplissement, c'est cette échéance, justement, on parle d'échéance, donc c'est très prenant, c'est très motivant, il y a ce cadre, il y a cette échéance, mais une fois que l'échéance elle est passée, t'es là un peu, ok, qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que je fous de ma vie maintenant? Eh bien, je pense que ce qui te manque, c'est pas tant l'activité que tu faisais, c'était peut-être plus l'investissement personnel et l'engagement que tu avais dans quelque chose qui peut te manquer ou qui peut créer un vide de sens. Et je pense que c'est important de se poser des questions, de réussir à déjà prendre le temps d'encaisser. Alors ça, c'est tout un sujet, hein, bien sûr, mais se reposer suffisamment mentalement, physiquement, prendre le temps de s'arrêter pour évaluer ses options, pour se projeter dans l'avenir, plutôt que de directement repartir dans un truc encore plus. C'est vrai que si tu fais toujours plus parce que t'es accro absolument au fait d'être très investi, très occupé, sans peut-être trop savoir pourquoi, ça peut être sympa de se poser des questions, c'est sûr, mais il y a pas mal de domaines dans lesquels on peut ensuite se projeter et trouver beaucoup d'épanouissement, d'enrichissement. Ça peut être dans ses relations personnelles, ça peut être dans sa famille, tu vois. Je pense qu'il y a pas mal de personnes je pense que c'est assez courant pour certaines grosses échéances professionnelles, on dira, de parfois passer moins de temps avec sa famille, et une fois que l'échéance elle est passée, de se dire putain, c'est vrai que je sais pas, hein, j'ai jamais vécu ça, mais peut-être que tu te dis c'est vrai que j'ai pas vraiment vu mes enfants grandir ces trois dernières années, ces cinq dernières années, je vais peut-être essayer de passer plus de temps maintenant, relâcher le pied. Parfois tu peux, parfois t'as pas l'occasion de le faire, bien évidemment, mais c'est pour essayer de donner des exemples un peu plus diversifiés que de juste le sport. Donc tu m'as compris vis-à-vis de ça. Pour l'instant, professionnellement, j'aimerais peut-être bien m'investir un peu plus, mais je pense que ça vient aussi du fait que actuellement l'aspect pro a dû être réduit parce que l'aspect perso n'a pas été réduit volontairement vis-à-vis de tout ce que cette prépa Ironman me demande. Donc voilà pour ça, et on va arriver sur les dernières petites questions vite fait parce que j'avais mentionné ça. J'ai trouvé ça intéressant, cette question, c'est et la libido dans cette prépa. Parce que du coup j'ai parlé, comme je l'ai dit, j'en ai parlé avec ma meuf hier, on en a parlé pendant 4 heures non-stop hier soir. Donc tu vois, en plus je passe 4 heures à parler avec ma copine, ensuite je me suis entraîné pendant 3h30 hier. Forcément, tu vois, si je préfère parler pendant 4 heures avec ma copine plutôt que de travailler pendant les 3 quarts de cette durée, forcément c'est des choix, des priorités, donc forcément je travaille moins. Mais jamais je ne me plaindrai de ça, bien entendu, c'est juste un constat que je me fais et que je me permets de partager et que je me partage à moi-même pour me dire tiens Eric, effectivement, vu les choix que tu as fait, voici les conséquences avec lesquelles tu dois faire. Mais c'est vrai que faire beaucoup beaucoup de sport, tu sais, tu te souviens le petit graphique que je t'ai fait au début là, quantité de sport et énergie, tu sais, plus tu fais de sport et moins t'as d'énergie à un moment donné. Est-ce que ça s'est reflété dans ma libido dans cette prépa? La question croustillante, t'as dû attendre 2 heures pour l'avoir. Bah, en fait, j'ai vu ça, je me suis fait ma petite réponse, et puis ensuite, j'ai posé la question à voix haute, j'ai demandé, en fait, je me suis, en fait, sincèrement, certaines questions qui ne concernent pas que moi, je me suis dit, bah, en fait, je vais les demander à ma copine, sans l'influencer par ma propre réponse, pour voir ce qu'elle répond. Et quand je lui ai demandé, ouais, vis-à-vis de la libido, qu'est-ce que t'en penses? Et elle a répondu exactement, mais littéralement, elle a répondu exactement ce que moi, je m'étais répondu. Donc, c'était plutôt bien, on est plutôt aligné à ce niveau-là. C'est-à-dire que, globalement, rien à signaler, toujours pareil, ça se passe bien, y a pas de souci. Avec une petite note en plus, une note qui est importante, c'est que, effectivement, ça m'arrive d'être, régulièrement, ça m'arrive d'être plus fatigué le soir. Bien entendu, le soir, des fois, je suis souvent fatigué le soir, et donc ça peut influencer. Parfois je suis trop fatigué. Je suis trop fatigué. Ah, j'ai la migraine. De temps en temps j'ai des migraines, tu sais, avec le soir. J'ai des migraines de fou en ce moment des fois. Ah, on rigole, bien sûr, on rigole. On est sur la fin du podcast, il y a plus que les vrais qui sont toujours là à la fin. Ceux qui m'ont écrit pour me dire putain Eric, il y a plus assez d'épisodes, je me fais chier là, vas-y balance. Bah mec, voilà, t'as 2 heures d'épisode, j'espère que ça te fait plaisir. Il faudra que ça tienne 2 semaines, probablement. Mais là, on est sur la fin. Donc, comment dire? Comme je le dis, actuellement, j'ai 10 séances de triathlon par semaine. Mais il y a aussi les dessous de la prépa, tu comprends? Il n'y a pas que le sport dans ma vie. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que j'ai... Ouais, ça reste entre nous, c'est parce qu'on se connaît bien, donc évidemment, je vais absolument rien balancer d'intime, mais je vais me permettre de répondre à la question quand même. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai terminé mes 10 séances de triathlon dans la semaine, le soir, il y a quand même régulièrement une séance de plus qui m'attend. Ou alors le matin au réveil, tu vois ce que je veux dire? Des fois, c'est des fractionnés, des fois, c'est des sorties longues. Alors, les sorties longues, un petit peu moins en ce moment, parce que forcément, fatigue, tout ça, voilà. Mais ça, on en parlera peut-être dans d'autres épisodes plus tard dans l'avenir de ce podcast, ou dans des épisodes basés, voilà, sur la polarité, typiquement. Des sujets que j'ai commencé à aborder, notamment dans les derniers épisodes. La polarité étant quelque chose de très important pour ma copine et moi dans notre couple, donc on veut absolument l'entretenir, la faire croître et... etc., etc. Tout ça pour dire que, franchement, c'est demandant. Franchement, physiquement, en ce moment, j'ai beaucoup de séances par semaine, et puis, comment dire, c'est possible que ma copine écoute ce podcast. C'est tout à fait possible. Ah, je suis pas sûr qu'elle ait envie de... Des fois, elle écoute, tu vois, et là, je te dis ça, petite confidence, tu vois, elle écoute régulièrement mes épisodes, mais quand ça parle trop de sport, ça l'intéresse moins. Donc peut-être qu'elle n'a pas tenu jusqu'à la fin de l'épisode, et qu'on peut... Non, mais c'est pour dire que, voilà, des fois... Des fois, la discipline, la discipline prend le relais, quoi. Tu vois, à un moment donné, des fois, faut y aller, quoi. Je veux pas déromantiser le truc, mais c'est important. Je l'ai déjà précisé. Des fois, faut faire des efforts. J'exagère, c'est pas des efforts, mais enfin, comment dire, c'est difficile. Voilà, je suis un peu fatigué là. J'ai fait du vélo ce matin. J'ai un long épisode de podcast, donc j'ai pas envie d'avoir à faire attention à mes mots et mes tournures de phrases. Tu vois, je suis trop fatigué pour ça. J'en ai plus rien à foutre. Allez, on est plus politiquement. J'en ai plus rien à foutre. Non, c'est pas vrai, mais c'est pour dire que bon, il y a des choses qui sont importantes. Des fois, il faut faire des efforts dans une relation. Et ce qui est sûr, c'est que je fais des efforts pour être en forme suffisamment pour pas que ça pénalise ma vie de couple, en fait. Parce que je l'ai dit dans mes objectifs, je me le suis dit vis-à-vis de moi-même et je l'ai dit à ma copine aussi. Je ne fais pas cette prépa Ironman pour que mon couple se pète la gueule complètement en parallèle parce qu'il n'y a plus que le sport dans ma vie et que je suis complètement consumé par mon sport. C'est pas du tout la vision d'une vie qui me donne envie, que j'ai envie de cultiver. Et comme je l'ai dit et comme je l'ai fait, parce que mes actions en parlent plus vis-à-vis de moi-même, j'ai l'impression, et de ma vision de moi-même aussi, je préfère privilégier ma vie de couple dans une certaine mesure que ma vie professionnelle, aussi parce que j'en ai le luxe, que je me suis offert le luxe, quelque part, mais ça reste la réalité. Donc, voilà. Pour répondre à cette question, tout se passe bien. Ça se passe très bien. Merci beaucoup de t'en inquiéter. Je suis un peu fatigué, mais on fait le taf. On verra à la fin de la prépa. Parce que là, j'ai des semaines de 20 heures d'entraînement. Pour l'instant, ça passe encore. Mais 20 heures, j'ai pas encore 20 heures. 17. On verra plus tard. On en reparle dans quelques mois, ok? On en reparle dans l'épisode, parce que je pense que le prochain épisode où je parlerai beaucoup de ma prépa, ce sera à la toute fin. Ce sera juste avant la compétition finale. Donc on se retrouvera dans 4 mois pour parler de ça, je pense. Là, c'est une petite update à mi-parcours, tu vois. Mais on se tient au courant, ok? Allez, dernière question, parce que j'avais une autre question à ce propos. C'est comment est-ce que ta copine vit ses 20 heures de training par semaine? Et je me suis permis de lui demander de répondre, en fait, tout simplement. Je lui ai montré mon tel, je lui ai dit, tiens, regarde, qu'est-ce que t'en penses? Et elle m'a dit qu'elle le vit très bien, car on passe toujours autant de temps ensemble. Voili, voilou, comme je l'ai dit, on a passé beaucoup de temps hier, tous les deux, etc. etc. Donc, on arrive gentiment à la fin de ce podcast qui était quand même sacrément long. Je suppose que tu as pris le temps de l'écouter sur plusieurs fois. J'ai aussi reçu plein de messages qui n'étaient pas des questions, qui me disaient « Merci Eric, j'ai commencé le street grâce à tes vidéos, j'ai commencé à courir, j'ai fait mon premier marathon, tes vidéos m'ont motivé, etc. » J'en ai reçu plein. J'en ai vu et entendu énormément à Paris, parce que comme j'ai dit, j'étais à Paris pour le marathon. Le jour du marathon, j'étais là, j'ai vu plein de gens de courir. J'étais au 40e kilomètre. À certains moments, j'étais en train d'encourager au bord de la route et je vois certaines personnes, souvent des jeunes hommes, quoi, clairement. C'est quand même le cœur de mon audience, on dira, quelque part. Plein de gens qui me regardent et tout, qui courent. Et ensuite, ils retournaient la tête vers moi et disaient « Ah putain, c'est Eric Flagg !» C'est trop marrant parce qu'en fait, moi, j'étais trop content d'être au 40e kill à un moment donné pour encourager tout le monde. J'encourageais les gens et j'essayais de lire les prénoms sur le dossard pour encourager les personnes. Exactement comme on m'avait encouragé, moi, un an plus tôt, au même marathon de Paris. Il y avait des Allé Eric, il y avait des gens qui me soutenaient. Et je me suis dit, bah putain, évidemment, je veux rendre un minimum l'appareil. J'ai essayé de le faire avec mes vidéos aussi. Mais voilà, c'est pour dire, c'était très sympathique de replonger dans cette ambiance du marathon et de rencontrer plein de personnes qui m'ont fait des retours aussi sur l'intégration de la course à pied dans leur vie récemment, qui a pu être aussi motivée, inspirée par mon travail. Donc, c'est trop cool. Merci à vous. Bravo à vous. Surtout, je suis très content. Je suis très content que vous soyez passé à l'action. Je suis fier de vous. Ouais, je suis fier de toi. On va s'arrêter là. Ça devient beaucoup trop personnel, tout ça. Non, je rigole, mais ça devient très informel. On se connaît quand même qu'à moitié. On se connaît que assez unilatéralement parlant pour beaucoup de tout ça. Et c'est justement très sympa parfois de rencontrer des personnes qui me disent « j'écoute les podcasts » et du coup, bah, quand quelqu'un me dit « j'écoute les podcasts », je sais que je peux altérer aussi ma façon d'échanger avec la personne parce que je sais qu'elle connaît quelques trucs sur moi et donc ça devient aussi plus personnel et bref. Tout ça pour dire merci à vous, merci à toi d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout, t'es un boss. Rendez-vous sur ericflagg.com pour tes besoins en matériel, en équipement. Code ericflagg sur MyProtein. On se retrouve d'ici 2 semaines, je pense, que je vais rester un petit peu dans ce groove maintenant que j'ai ce TEDx et que j'aimerais bien sortir une vidéo. Pour un prochain épisode, j'ai reçu plein de questions très intéressantes aussi. J'en ai toute une liste d'ailleurs. Peut-être ça fera le sujet d'un prochain podcast. Des questions dev perso, des questions sur la muscu, des questions sur le business, sur la vie, enfin, plein de trucs. On verra. Merci pour ton temps, ton attention. En attendant tout cela, travaille bien, prends soin de toi. Ciao, moi je vais à la muscu, parce que j'ai pas fait assez de sport, c'est en dernier, j'ai pas fait assez de sport. Bon, t'as officiellement atteint la fin de cet épisode, félicitations. Si le podcast te plaît, n'hésite pas à me le faire savoir en lui mettant 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast, et en t'abonnant pour ne rien rater. Et ça, tu peux le faire là, maintenant, en sortant ton téléphone, ça prend 5 secondes, tu vois. Merci beaucoup pour ton attention, j'apprécie énormément, passe une belle fin de journée, et à très bientôt.